Vous écoutez
RMC.
RMC.
Mais je vais quand même pas pleurer parce que le Barça a pris 4-0 quand même, faut pas déconner les mecs.
C'est la stat qui permet d'estimer la probabilité qu'un tir cadré finisse en but selon où il arrive dans le but.
C'est marrant, Jean-Baptiste, il y a faute quand même.
Il y a un
tes limites.
Il y a un coup de cul, il y a rien d'extraordinaire.
Bon, non, il y en a pas. Non.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous et bonjour à toi qui nous écoute en podcast. Bienvenue dans Génération After. Vous l'avez compris, la petite musique historique, spéciale, drôle de dame. Pour l'Allemagne, une drôle de dame qui a enfin retrouvé son ami Bully. Bonsoir Paulo Breitner.
Bonsoir mon cher Nico, bonsoir tout le monde.
Elle est pas mal celle-là.
Elle est très bien.
La référence, mon ami Bully.
Tu sais
Bully,
pourquoi, on dit Bully? Oui, bien sûr, mais en fait, c'est des expressions qui existent dans les familles parce que la Bundesliga fait tellement partie des familles allemandes que c'est comme une vieille tante, si tu veux.
Ah.
Et voilà, c'est comme ça.
J'aime bien.
Et Bully, c'est dans Nous irons tous au paradis. Enfin,
exactement. Bully, mon ami voilà. Bully.
Ouais.
Tout à fait.
Mon ami Bully.
Pour l'Italie, une drôle dame qui rajeunit de semaine en semaine quand la vieille dame se ride de jour en jour. Bonsoir, Johan Crochet. Non, c'est trop. En plus, t'as rien contre la Juve. Bonsoir, Johan.
Non, rien du tout. Bonsoir, messieurs.
Pour l'Angleterre, une drôle de dame qui a préféré zapper un grand City Tottenham jeudi soir pour briller au bord d'un parc NBA façon Jack Nicholson. Bonsoir Julien Laurence, je ne te félicite pas.
Salut Nico, salut à tous. Je ne pouvais pas dire non à l'invitation de la NBA, c'est pas possible.
C'est à Bercy jeudi soir. Il y avait un gros match. Gilbert n'a pas eu le droit d'avoir Julien Laurence en fin d'after pour débriefer ce match. Parce que monsieur était là, tel un Spike Lee.
Comme Chouamini.
En court side, comme on dit.
Mais Chouamini, c'est le même problème.
Chouamini aussi.
Il était blessé.
Pareil.
Son équipe.
Chouamini Laurence, c'est la même galère.
Très important à Villarreal en Coupe du Roi. Et sans rien dire, il est venu à Paris alors qu'il aurait dû rester à Madrid devant sa
télé. Et le lendemain, il s'est excusé comme s'il ne savait pas que ça allait faire du bruit. Voilà. C'est marrant.
Exactement.
Bon, ouais.
Comme si c'était grave d'ailleurs.
Ouais. Comme si c'était grave en plus.
Je n'ai pas demandé la permission, oui.
Bon. Je lui ai demandé la permission au chef, on posera les questions tout à l'heure. Au grand chef de l'after. Pour l'Espagne, une drôle de dame qui a déjà réservé sa place sur le bus à Impérial du RC Lens le 4 juin prochain.
C'est pas mal.
Voilà, tu seras ou pas?
Ah bah oui, attends, si on joue le titre, j'y vais. Là je sais pas, j'aurai une gastro ou quelque chose. Enfin, ou je me mettrai à genoux devant Gilbert.
Est-ce que tu iras avec ta parka Napoli que tu as amené ce soir
dans Génération
After?
Il fait très froid.
Donc, je crois que c'était à Crochet et là non, je vois Fredo arriver, Dodo avec
un cadeau d'un
Napoli, un entraîneur. À 22h donc, l'after avec Gilbert Bribois. Bonsoir Gilbert.
Salut les gars. Oui, effectivement, la parka Napoli de Fred, c'est un peu déstabilisant.
Déstabilisant.
Ah, une petite parka Valladolid, bon, je me dis, pourquoi pas.
Oui, parce que Dodo, le crâne dégarni, la parka Napoli, ça aurait pu être un crochet. Bah non,
sans déconner, c'est d'une chaleur, c'est un truc de fou, c'est tout léger.
Oui.
Et c'est de la qualité.
Ils ont quelques moyens, je crois, oui, pour.
C'est la même marque qui a fait les maillots de l'after, c'est de la qualité.
Ouais,
c'est vrai,
alors, à 22h tout à l'heure, on va parler Coupe de France. Il y aura la fin du match du PSG, voir si on a passé un bon week-end ou pas. Et puis, ça va naturellement nous emmener vers l'OM, vous avez vu le tirage hein, avec Marseille-PSG donc en huitième de finale, parce qu'il y a plein d'infos mercato de Marseille à partager. Florent Germain sera là, Florent Gautreau qui sera là, lui aussi veut faire un avis sur le mercato Marseille, la suite de la saison de l'OM, et Daniel veut aussi en parler. On parlera ensuite de Giroud et de son avenir en équipe de France. Vous avez vu que c'est un peu l'actu du jour suite à l'interview qu'Olivier Giroud a donné, et puis l'after va répondre à Rotten sans flamme, parce que oui, Jérôme Rotten a fait le procès de la politique de Longoria. On a écouté ça et on va répondre. On va faire la cour de cassation après le procès, enfin, l'appel et cassation.
C'est sérieux là, et condamnation peut-être.
Bon. C'est possible.
Ce sera à 22h, c'est tout Gilbert.
Le reste de l'actu du jour, enfin voilà, tout quoi.
Le débrief de Philippe Cassel PSG, bien sûr.
Bah, ça va dépendre du scénario. S'il y a 6-0.
Oui, t'as raison.
Ça dépend de
minutes d'histoire. Oui.
Oui. Oui.
C'est à partir de 22h avec Gilbert, donc vous nous appelez au 3216, le hashtag RMC Live, l'application RMC Sport, Direct Studio pour envoyer vos commentaires. Évidemment, on suivra la rencontre d'un 16e de finale de Coupe de France entre Pays de Cassel et le PSG. Je rappelle les affiches rapidement pour ceux qui nous rejoignent des 8e de finale qui se joueront dans la semaine du 7-8 février. Lyon-Lille, Toulouse-Reims, Angers-Nantes, PFC-Annecy, Virzon-Grenoble, Grenoble voire Virzon, mon cher Fred. Auxerre-Rodez et Lorient-Lens et donc Marseille-PSG ou Marseille-Pays de Cassel, coup d'envoi de ce match à 20h45.
T'as voulu voir Vierzon, on avait Vierzon.
Tout à fait. Messieurs, c'est parti, 15 secondes, de quoi allez-vous nous parler ce soir? Je commence avec toi, Johan. C'est toi l'homme du soir là quand même.
Et évidemment, on va longuement revenir sur ce qui s'est passé en fin de semaine du côté de la Juve et la sanction.
les conséquences possibles, vous expliquez aussi pourquoi les clubs italiens et pas que la Juve font ce genre d'opération, et ça remonte à très très loin. On va évoquer ensuite rapidement le cas Zaniolo, qui faisait beaucoup parler avant que la Juve arrive sur la sphère médiatique, pour tout ce qui se passe autour de son avenir. Et puis une petite minute à propos de Sassuolo.
Fred.
Eh ben, on va parler d'une petite révolution au milieu de terrain du Real Madrid. Vous savez, Casemiro est à Manchester United. Et hier soir, match essentiel à Bilbao, victoire 2-0 des Merengues. Eh ben, Kroos et Modric sur le banc. On va parler aussi d'un extraordinaire Antoine Griezmann. Et on parlera du Barça, qui a fait une victoire de possible champion en jouant mal. Mais en l'important contre Retafe, avec un petit mot sur Daniel Alves et les excuses, prononcées après la rencontre par, Xavi Hernandez.
Julien.
Deux gros chocs chez moi en Angleterre, deux chocs très différents. D'abord le Liverpool-Chelsea, on s'est bien ennuyé. Et puis après le Manchester United, le Arsenal-Manchester United qui a été emballant, fantastique dimanche après-midi. On parlera aussi de West Ham qui a enfoncé un peu plus Everton, qui a limogé son entraîneur Frank Lampard Junior.
Polo.
Bah écoutez, on a eu une reprise avec 41 buts en Bundesliga, avec un dimanche assez extraordinaire, et on va débriefer la performance du Borussia Dortmund, 4-3 contre Augsbourg. Ensuite, le match d'après, bah c'était Leverkusen en Rhein Derby contre Mönchengladbach, victoire 3-2, l'équipe de Xabi Alonso, et 4 victoires à la suite. Et puis la petite minute sera pour monsieur Uli Hoeneß, qui était en tournée médiatique.
C'est une surprise la minute, pas la déflorer. Dommage, écoute.
Ah pardon.
Il y aura la musique, hein, qui fait office de surprise, bien sûr. J'ai même pas découvert le choix musical de Polo ce soir. On va voir ça.
Bon, mais je ne connais pas, donc.
Hein?
Que mes Polo, du coup, n'importe trop jeune.
Quoi, mais quel mépris. Mais non, bah, je connais des groupes qui étaient en activité quand j'étais pas né.
Ouais.
Je connais Jacques Brel, par exemple, tu vois.
C'est pas un groupe allemand.
Pas encore, pas du tout.
Il aurait pu.
Avant de dérouler vos points, messieurs, jusqu'à 22h, détour par la Coupe de France. Jeannot Rességuier est à Bollard, c'est justement Pays de Cassel, Paris Saint-Germain. Salut Jeannot.
Bonsoir tout le monde.
Et Jeannot, fais attention, hein.
Salut, drôle de l'air. Hein. Pardon, Fred, je suis chez toi.
Fais attention, hein, non, ça, tu casses rien. Hein.
Ouais, tu sais que ce soir, ils sont tous flamands, hein, dans le stade. Hein.
Ouais, ouais, c'est pas vraiment des ch'tis, quoi, c'est autre chose.
Bah, ouais. Ah, ça y est.
Mais tu connais, mais nous, tu vois, nous, les ch'tis, et nous, les artésiens, on accueille tout le monde. On est comme ça.
Ouais, c'est la Flandre intérieure. En tout cas, le pays de Cassel, et le stade va être plein. 38 000 spectateurs à guichet fermé. 17e match à guichet fermé à Bollard depuis le début de la saison, ce qui est quand même assez énorme. Et là, ce soir, c'est pas Lens. C'est donc un record dans l'histoire de la Coupe de France. C'est la plus grosse affluence pour un club de Régional 1 face à un club de Ligue 1. Et quel club? Le Paris Saint-Germain, le champion de France en titre, l'un des cadors du championnat, même si y a deux défaites à l'extérieur, une à Lens ici et une face à Rennes en Bretagne dans le championnat de Ligue 1, mais ils sont ultra favoris. La compo d'équipe vient de tomber à l'instant même. Navas dans les buts, Pembélé latéral droit de retour, donc confirmation, et ce qu'il avait joué lors du match à Riyad. Nuno Mendes à gauche, Sergio Ramos, Danilo en charnière, Vitinha, Soler, Renato Sanchez au milieu, Neymar, Mbappé et Ekitike pour les trois offensifs. On rappelle que Donnarumma et Messi n'ont pas fait le déplacement, qu'il y a aussi des joueurs blessés ou en reprise comme Kimpembe, comme Verratti ou Mukiele. Pour ce qui est du pays de Cassel, c'est la soirée de leur vie, une équipe qui évolue donc en Régional 1 et qui va avoir le plaisir d'affronter le Paris Saint-Germain avec donc Sanson dans les buts, Thor avec Smijac le capitaine pour la charnière, Centrin à droite, Rapaille à gauche, Leclerc, Boudjema, Brunel l'ancien joueur de Dunkerque au milieu de terrain, Sané, Le Ganaz l'attaquant buteur et Clément Bodansky. Voilà, ça leur fait plaisir de s'entendre ce soir, ou en tout cas pour leurs proches à la radio qui sont encore sur la route, qui arrivent, qui débarquent, plus de 21 bus, un train spécial. Bref, c'est une véritable fête ce soir pour deux joueurs. Elle sera plus particulière que pour d'autres. Smijac, le capitaine, et
oui, Boudjema,
le milieu de terrain. Ils sont tous les deux supporters du Paris Saint-Germain, mais pas que supporters et membres du CUP. Donc voilà, pour eux, c'est un match un peu particulier. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, lors du match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, ils jouaient leur 5e, 6e tour de la Coupe de France contre Aumont, à Aumont. pas très loin de d'ici, et ils sont partis très vite à la fin du match. Ils ont même pas fêté la victoire. Pourquoi faire ? Pour pouvoir être présent dans les tribunes du Parc des Princes et assister au classique entre le Paris Saint-Germain et Marseille. Ça sera un match très particulier pour eux, mais bon, vous l'aurez compris, si c'était un exploit, mais ce serait totalement extraordinaire, irréel. Irrationnel, même à la limite. Mais bon, sait-on jamais de ce qui peut se passer.
Ce qui serait dingue, c'est qu'il pourrait aller jouer Marseille au Vélodrome.
Exactement.
Un exploit, alors, c'est ça qu'il faut.
Jouer à la Bollard. Ça pourrait rentrer encore ici à Bollard, puisque oui. Vous savez qu'il a l'inversion par rapport aux différences de niveau. Bah, sinon, ce sera Marseille, Paris, Saint-Germain en huitième de finale, puisque tu l'as dit, le tirage au sort a été effectué tout à l'heure.
Merci, Jeannot. Coup d'envoi à 20h45. On suivra ce match avec
et
toi.
Un petit détail, si tu me permets. 45 bénévoles du club, 400 licenciés dans ce club, 45 bénévoles du club ce soir qui ne vont pas travailler, qui ne vont pas participer à l'organisation du match, puisqu'ils vont être invités comme des VIP par leur président, par les dirigeants du Racing Club de Lens qui ont mis le stade à disposition. Voilà, c'est l'occasion de les remercier. Je trouve que le geste est plutôt sympa.
C'est vrai que c'est sympa. Jeannot, à tout à l'heure pour le coup d'envoi de ce match Pays de Cassel, Paris Saint-Germain, 20h45 sur RMC. On fait une pause et on lance la soirée Drôle de Dame dans un instant. Le programme est magnifique, vous l'avez entendu. Vous écoutez RMC, Génération After, 20h11. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After,
Nicolas Jamain.
Génération After, comme tous les lundis soirs de 20h à 22h, spécial Drôle de Dame avec Polo Breitner, Julien Laurent, Simon Crochet et Fred Hermel. Polo, die Bundesliga ist zurück. C'est on dirait un Turc qui parle allemand là, c'est Toulouse et j'ai fait allemand pourtant les gars, 6 ans d'allemand mais voilà, c'était loin. 65 jours plus tard, la lumière fut enfin, la Bundesliga est de retour et ça commence par un feu d'artifice de Thor. Ouais. 41 buts pour ce premier week-end de Bundesliga, 4,55 buts par match, c'est dingue.
Ouais, c'est
comment fou, tu l'expliques mais... on débat là-dessus ou on se dit ça dérange.
Il y a souvent des surprises, alors on est loin des records historiques, hein, mais si tu veux, c'est toujours compliqué lors d'une reprise de voir comment vont évoluer les équipes. Et il y a quand même des grosses surprises, le Wolfsburg qui écrase complètement un Fribourg qui est normalement très très solide, c'est bizarre. Cologne qui enfin s'est refait la cerise et qui en colle 7 en 7 au Werder qui n'était pas prêt. Il y a des choses comme ça, mais surtout, si tu veux, c'est là où il faut analyser la situation, parce qu'on va parler notamment du Borussia Dortmund. On a eu un dimanche de feu avec cette rencontre contre Augsbourg, qui est théoriquement une équipe de seconde partie de classement, où il y a eu 4-3. Donc, je conseille à tous nos auditeurs de revoir les buts, notamment ceux du Borussia Dortmund, tellement ils sont beaux, dont le dernier, celui de Giovanni Reina. Mais si tu veux, il y a le scénario 40e, 42e, 46e, 75, 76, 78, ça va d'un but à l'autre, etc. Et lorsque tu finis cette rencontre, t'es là, tu dis wow, fabuleux ce qu'on vient de voir, des phases de jeu extraordinaires du Borussia Dortmund avec un anglais, Bellingham, je suis désolé, qui est de plus en plus monstrueux. Je sais pas si vous voulez faire un hommage appelé Maradona en même temps, mais alors
non,
là
on va parler Bellingham parce qu'on n'a jamais pris trop le temps d'en parler. Julien aussi, tu vas être sollicité pour son avenir également parce que il semble filer tout droit vers l'Angleterre.
Il est suivi par le Real aussi.
Le Real aussi.
Pas sûr qu'on ait l'argent.
Pareil que City en rêve ou que lui rêve de City aussi. Bellingham, allons-y maintenant. Bon, il marque, au-delà de son but, il est phénoménal. Alors j'ai vu que tout le monde a repris son geste exceptionnel, là, son dribble qu'il aurait inventé. Double contact, semelle droite, talon gauche, grand pont. Bref, c'est un match fantastique, Polo.
Non, mais c'est extraordinaire déjà parce que c'est sa jeunesse. Moi, je l'ai toujours comparé à un Patrick Vieira, mais pour moi, il est déjà au-dessus par rapport à son volume offensif. Mmh. C'est-à-dire que c'est un vrai box-to-box. Vous voyez son physique, ses cuisses, à lui tout seul, il résout le problème de la fin dans le monde, quoi. Enfin, c'est complètement dingue le volume qu'il a. Alors évidemment, il fait des erreurs parce qu'il n'est pas toujours, donne pas toujours la balle dans le bon moment et tout ça. Mais ce volume de jeu qu'il a est impressionnant.
Il a un coffre.
Il a un coffre extraordinaire. Je crois que j'ai rarement vu un joueur si jeune. Si tu veux, j'étais un grand fan de Patrick Vieira et de Manu Petit avant. Mais si tu veux, lorsque tu vois un gamin de 19 ans comme ça, qui mesure 1m86, qui est dans sa surface pour défendre et qui se retrouve à la fin de l'occasion quasiment buteur ou passeur décisif après avoir éliminé 3-4 personnes, ça te fait quand même extrêmement bizarre. Donc Bellingham, il est impressionnant. Enfin, je veux dire, pour moi, et j'aime pas encore une fois valoriser trop les jeunes parce qu'on sait jamais comment ça va évoluer, mais si Bellingham n'est pas un jour un candidat au Ballon d'Or, je comprends pas. C'est-à-dire que son évolution est naturelle.
Et puis il a un nom qui claque. Jude Bellingham.
Ah ouais, ouais.
Oui, non, franchement, les gars. Ah ouais, la rythmique, le prénom, le nom.
Jude Bellingham, ça fait acteur ou ça fait chanteur des Beatles.
Quoi, bah, exactement ce que j'allais dire. Jude Bellingham. Vas-y, Polo, je t'ai coupé.
Donc, c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Alors, il compense parfois. Il en fait trop, évidemment. À 19 ans, on sait très bien qu'il y a l'expérience. Il en fait trop parfois. Il faut dire qu'il n'a pas été aidé par Mokoko et Adeyemi, les deux autres jeunes de l'équipe, au passage, durant la rencontre. Mais son entente avec Julian Brand est extraordinaire. Mais, si tu veux, pour en revenir sur cette rencontre, t'arrêtes la rencontre. Tu te dis, ouah, j'ai vu un match extraordinaire. Et ensuite, tu redeviens consultant chez RMC.
Ça s'appelle 4-3 pour le Borussia.
Ouais, 4-3. Et tu te dis, oula, c'est quand même assez chaotique. Et j'ai envie de parler de Nico Schlotterbeck, qui est quand même le défenseur central allemand, qui a pas fait une belle Coupe du Monde. Là, il fait une boulette extraordinaire à 40e et il marque à la 42e, tu vois, pour redonner l'avantage à Dortmund. Et cette rencontre, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, il y a des buts fabuleux. Regardez un autre anglais, hein, qu'on va peut-être amener à parler dans l'avenir, qui est Bilou Aguitens, qui revenait de blessure. En parlant de blessure, évidemment, standing ovation à l'heure de jeu pour la rentrée de Sébastien Haller. Et là, donc extraordinaire au niveau de l'émotion. Mais là, le problème, et c'est ce qu'on avait vu à l'époque lors des matchs allés, lorsqu'il y avait Anthony Modeste qui était en pointe, ils veulent jouer toujours à plat, les joueurs de Borussia Dortmund, tout proche de l'herbe, ils savent pas lever le ballon. Et donc, Sébastien Haller, aussi talentueux soit-il, ne reçoit aucun ballon. Ça devient compliqué. Donc, toutes ces choses-là, si tu veux, à 3 semaines maintenant de la rencontre contre le club anglais de Chelsea, qui est, je trouve d'ailleurs, malgré tous ces petits soucis, enfin Julien en parlera mieux que moi, est quand même une équipe assez solide. Moi, ce que je vois aujourd'hui, j'ai eu un festival, mais alors l'équilibre, la balance, elle n'est pas là.
Elle n'est pas là. Tiens, parlons justement de Chelsea. Dans 3 semaines, tu l'as dit, Polo, ce duel 8e de finale Ligue des Champions, le Borussia face à Chelsea. Julien, on a vu un bon match de ventre mou, Liverpool-Chelsea, 0-0 score final. Tu penses que, bon, il y a encore du temps, hein, on va parler de Mudryk dans un instant également, que ça peut être un 8e assez ouvert ou pas?
Je pense que ça peut être un 8e assez ouvert. Le match nul de Chelsea à Liverpool, c'est un match où personne ne veut perdre finalement, ni Liverpool ni Chelsea. Finalement, tu perds moins à faire un 0-0 comme ça que si tu avais perdu, si tu avais joué pour essayer de gagner et si tu avais perdu. Je pense que là, on aurait pu parler de crise encore plus pour un des deux vaincus finalement. Alors que là, 0-0, bon, Klopp a parlé de baby steps, de petits pas vers du mieux. Ça l'était pour Chelsea. Tu prends pas de but à Liverpool, c'est déjà très bien. Et puis en plus, on parlera de Mudryk tout à l'heure, mais t'as quand même l'excellente entrée en jeu de ta nouvelle recrue à...
Vas-y, millions, hein, tu peux en parler maintenant, hein, Julien, parce qu'effectivement, il a joué 40 minutes environ, il est entré à la 55e.
Ouais, alors on n'était pas sûr parce qu'il n'avait pas joué depuis novembre à cause de la Coupe du Monde et puis ensuite de la trêve hivernale pour les clubs ukrainiens. On n'était pas sûr dans quel état physique il était. Je pense qu'il y avait beaucoup d'excitation par rapport au potentiel qu'il a et ce qu'on avait pu voir avec le Shakhtar dans la première partie de saison. Et finalement, il est entré dans un match, on l'a dit, hein, un match où il se passait pas grand-chose. Et il a été électrique, il a été exceptionnel de par ses accélérations, sa vitesse balle au pied, les dribbles, tout ce qu'on a pu voir, les petites talonnades, les passements de jambes, les crochets, tout ça. Il a transformé son équipe, il a transformé la rencontre. C'était magnifique à voir, c'était vraiment très très beau à voir. Maintenant, ça peut que aller mieux finalement parce qu'il sera de plus en plus prêt physiquement, il connaîtra de mieux en mieux son équipe, son entraîneur, la façon de jouer de Chelsea. On avait toujours dit, hein, que de toute façon le gros défi entre guillemets, le challenge pour Potter, c'était de pouvoir incorporer Mudryk dans cette équipe là et qu'il se sente bien.
Tu penses qu'il peut changer en partie Chelsea ou pas?
Sur ce qu'on a vu contre Liverpool, alors encore une fois, c'est une équipe de Liverpool qui est très moyenne, dans une équipe de Chelsea qui est très moyenne aussi. Mais ce qu'il a fait sur 40 minutes, c'était quand même assez exceptionnel par rapport à ce que le reste avait produit jusque-là dans la rencontre. C'était très beau à voir. Donc on verra maintenant comment ça va se passer. Est-ce qu'il est prêt à être titulaire le week-end prochain, par exemple? Je sais pas. Ce sera le match contre Fulham. Je sais pas si tu peux le mettre comme ça à domicile ou si tu encore une fois tu le fais entrer en jeu en cours de match. Il a peut-être besoin d'un peu plus de temps. Mais en tout cas sur ce qu'on a vu là,
ça va être l'attraction là maintenant.
T'as envie d'en voir plus.
Ouais, c'est ça exactement, Fred.
Une petite question par rapport au 8e de finale de Ligue des Champions. Parce que tu parles de Liverpool comme une équipe moyenne, de milieu de tableau, disait Nicolas. Tu dis que step by step, est-ce qu'il y aura assez de step justement de marche pour être à la mi-finale, je crois que c'est le 23, hein, le match.
C'est le 21 février, réception du Real, bien sûr. Hein.
Voilà, le Liverpool-Real. Est-ce que tu penses que c'est une équipe qui est capable, cette équipe de Liverpool, de se refaire une petite santé d'ici là, ou tu penses qu'elle restera encore une équipe moyenne? C'est dans 3 semaines, quoi.
Ouais, c'est dur à dire, Fredo, parce qu'ils ont été très bons en Ligue des Champions parfois. Il faut le reconnaître quand même. Hein. C'est l'équipe, la première équipe à avoir battu le Napoli, par exemple. Alors Napoli qui était déjà qualifié, c'est sûr, mais quand même, ils ont fait des, il y a eu des bonnes performances. Ils sont allés gagner 3-0 à l'Ajax. Alors l'Ajax aujourd'hui, ils sont cinquième dès leur édivisé, donc c'est pas non plus l'Ajax peut-être des grandes années, mais quand même, fallait y aller, marquer 3 buts, ne pas en encaisser. Donc il y a eu des meilleurs shows dans la Ligue des Champions qu'en championnat. Ça, d'accord, c'est sûr et certain. Il y a aucun doute là-dessus. Après, c'est quand même très compliqué en ce moment pour marquer des buts, pour ne pas en encaisser, pour trouver le bon 11 de départ avec la bonne dynamique. C'est compliqué quand on voit ce que Mudryk a apporté en 40 minutes et ce qu'on voit, et on voit Gapko par exemple qui a quand même un petit peu de mal à se mettre dans le rythme parce que l'équipe autour de lui à Liverpool a du mal à fonctionner. C'est vrai que comme ça sur le papier, t'as du mal à voir comment cette équipe de Liverpool pourrait vraiment poser beaucoup beaucoup de problèmes au Real. Mais après, en Ligue des Champions, comme je te dis, ils ont été meilleurs qu'en championnat.
Transition toute faite. Merci Fredo. Le Real donc qui remporte un match qui fait du bien ce week-end à Bilbao, 2-0. Et là, cher Fredo, j'attends un mea culpa de ta part. Tu nous as dit la semaine dernière que Eduardo Camavinga, et j'étais d'accord avec toi en plus, c'était un joueur d'impact de dernière demi-heure.
Bien sûr, ouais.
Il a débuté contre Bilbao, à Bilbao, il a été excellent. Et on va parler du banc de touche du Real surtout.
Ben oui, alors, parce que hier le Real Madrid, dans un des trois déplacements les plus compliqués de l'année. C'est-à-dire que quand tu es le Real Madrid, tu as trois dates à l'extérieur que tu regardes, c'est au Barça, c'est à l'Atlético, et c'est à Bilbao. C'est vraiment, parce que j'ai souvent dit, mais l'Athletic Club, comme on dit en espagnol de Bilbao, est une équipe qui n'est jamais descendue en deuxième division, tout comme le Real et le Barça. Et c'est vraiment, l'ambiance est géniale, le nouveau San Mamés, etc. Et hier, pendant 20 minutes, ils se sont fait bouffer les Madrilènes. Mais c'est comme ça tout le temps, parce que il y a une énergie des Lions.
C'est des plus grosses ambiances en Espagne, tu dirais?
Ah oui. San Mamés. San Mamés, c'est surtout quand il y a le Real en face. Et ou la Real Sociedad, qui est pour le derby. Donc, Et tu regardes le 11 de départ, normalement, en 11 de départ, mais t'as Kroos et t'as Modric quand ils sont disponibles, quoi. Enfin, je veux dire, tu te poses même pas la question. Et la Kroos était sur le banc, alors qu'il avait été sorti le match précédent, qui était un match compliqué de Coupe du Roi à Villarreal. Et Modric, il est rentré en fin de rencontre lui aussi, il était sur le banc là, mais il avait même pas été convoqué pour le match précédent à Villarreal. Donc tu te dis, Carlo Ancelotti prend un risque énorme, parce qu'il met Camavinga, il met Valverde et il met Ceballos au milieu de terrain pour aller jouer à Bilbao. C'est très osé, mais c'est parce qu'il doit estimer que l'état de forme de Modric, et je dirais même de Kroos, est inquiétant. Physiquement, on sent qu'il y a
alors Modric, il a pour lui qu'il revient à un mondial jusqu'en voilà, petite finale.
Kroos, pas,
il a fait toute la durée. Et Kroos, en revanche, est-ce qu'il n'y a pas plus un doute sur l'avenir de Kroos finalement au top niveau que celui de Modric?
Si, et d'ailleurs, et Kroos, c'est pas quelqu'un qui va s'installer. Il veut renouveler là maintenant que d'année en année. Bon, c'est ce qui est la politique au Real, mais il va pas se traîner. C'est-à-dire qu'il va pas essayer de gratter une saison de plus comme ça. Lui, il veut partir bien, quoi. Et c'est tout à son honneur d'ailleurs. Mais c'était très étonnant. Donc, quand j'ai vu le 11 présenté par Carlo Ancelotti hier, je me suis dit, oulala, il prend un risque. Parce que si ça marche, c'est Carlo, t'as des cojones, c'est un génie. Si ça marche pas, c'est oulala, comment t'as pu jouer ce match-là sans
cette. Il commençait doucement à être sous pression, hein, l'ami Carlo.
Oui, oui. Alors, il y a eu la victoire à Villarreal en coupe après avoir été mené 2-0 à la mi-temps, qui a un peu relancé la machine. Mais hier, ils font un très bon match, le Real. Hein. Ils font un très bon match. C'est-à-dire qu'ils tiennent bien les 20 premières minutes. Quoi qu'il arrive, j'en ai vu des milliers de matchs comme ça où Bilbao est à fond et le Real doit souffrir sans rompre, quoi, tu vois. Et après, bon, il y a eu vraiment un milieu de terrain très très bon avec un Ceballos qui a été très calme, très très calme. On sent qu'il prend de la maturité, quoi, voilà. Donc, avec un excellent Asensio. Attends, le retour d'Asensio, moi, il me fait plaisir. Donc, j'écoutais tout à l'heure Polo quand il parlait de Jude Bellingham. Moi aussi, je voyais Asensio un futur ballon d'or. Sauf qu'entre temps, il s'est fait les croisés et puis il a découvert la fête à Madrid.
Et, oui.
Et vraiment, il avait tout pour être un très très grand. Mais, on va donner un peu de nouvelles de Karim Benzema. Il met un but, il fait un bon match, mais je trouve qu'il n'a pas encore le niveau qu'il avait la saison dernière.
Mais il est efficace, 6 buts, c'est 6 derniers matchs avec le Real.
Non, mais son but, sa reprise, elle est incroyable, quoi. C'est une demi-volée.
En se retournant.
En se retournant, enfin, c'est fabuleux. Mais il y a encore dans le jeu de Karim Benzema des fautes techniques très étonnantes chez lui.
D'accord.
Il n'est pas encore à 100% de sa confiance. C'est-à-dire que, et même moi, des fois, on dit mauvaise passe, mauvais contrôle, etc. Donc, le Real a fait un bon match hier avec un Benzema qui, par rapport au reste de l'humanité. Et la moyenne des footballeurs, Benzema est au-dessus de tout le monde. Mais, enfin, en tout cas, de la plupart des joueurs. Mais c'est pas encore le vrai Benzema quand on le compare à lui-même. Donc, la question qu'on se pose aujourd'hui par rapport au milieu de terrain, parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse ce soir et ce qui peut surprendre les gens qui suivent souvent le Real. Il y a le derby en coupe, quart de finale, match unique contre l'Atlético, à Bernabéu jeudi. Est-ce que Carlo Ancelotti va oser mettre un 11 sans Modric et sans Kroos?
Là, ça aura du sens, tu penses?
Ça aura beaucoup. Alors là, ça aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens.
Voilà pour le Real. On sera là jeudi soir pour ce match. T'as raison. Hein. Ouais, Real, super, ouais. Atlético de Madrid. On parlera de Griezmann tout à l'heure également. On parlera aussi de Dani Alves, hein, qui à l'heure où l'on se parle est derrière les verrous.
Il est en prison.
Tout simplement. Il est en prison. Tout simplement. On en parlera tout à l'heure également. C'est l'heure de la première minute de ces drôles de dames. Elle est pour toi, mon cher Johan Crochet. De quoi nous parles-tu ce soir, Polo? Envoie la musique, s'il te plaît. Bon rap italien.
Exactement. C'est Broken Speakers avec un feat d'un groupe de hip-hop romain. C'est Alti et Bassi, donc c'est facile à traduire, des hauts et des bas. Et c'est pour raconter un petit peu ce qu'est en train de vivre Sassuolo. On a souvent parlé de Sassuolo dans la première moitié de classement, une équipe un peu modèle avec une politique sportive et économique tout à fait fluide et bien gérée. Sauf que là, ils ont peut-être vu un peu trop gros au niveau des ventes cet été, parce qu'ils ont perdu Raspadori, ils ont perdu Scamacca. Moi, j'ai eu beaucoup de doutes sur la perte des deux. Autant perdre un autre joueur dans une autre ligne pouvait passer, mais quand tu perds les deux tiers de ton attaque, en plus tu as perdu Djuricic, qui était un 10 assez régulièrement utilisé, donc ça veut dire trois quarts de ton attaque, avec des blessures monstrueuses, Berardi, et c'est pas rien pour Sassuolo, longuement blessé, il a quasiment pas joué de la saison, Ahmed Traoré pareil, on a même Maxime Lopez qui était blessé, Consili, le gardien, est blessé, donc y a, vraiment c'est une saison où rien ne va, où rien ne tourne dans le bon sens. Ça remet pas en cause la politique de Sassuolo, mais attention, je commence à avoir des achats à 15 millions d'euros, 20 millions d'euros, 25 millions d'euros. Quand tu commences à avoir beaucoup de rentrées d'argent, attention à pas voir un peu trop gros, parce que quand tu te rates sur un joueur à 10 millions d'euros, Sassuolo a les moyens de gérer ça. Quand c'est un joueur à 20, 25 millions d'euros, ça va être un peu plus compliqué à gérer. Donc pour l'instant, ils sont 17e. C'est vraiment ric-rac, cric-crac, comme dirait Laurent Blanc, je crois.
C'est ça.
Ils ont 5 points d'avance sur la zone de relégation, donc c'est pas énorme. Et attention au calendrier, dans les 4 prochains matchs de Serie A, il y a le Milan, l'Atalanta et le Napoli. Rien que ça. Donc,
attention.
Dans cette série de 4 matchs.
On pense à Maxime Lopez également.
Dans cette série de 4 matchs, on pourrait avoir, à condition évidemment que les Las Véron gagnent beaucoup, mais un Sassuolo relégable.
Tu nous présenteras tout à l'heure hein, l'éventuel probable recrue de l'Olympique de Marseille, Ivan Illich, un joueur de Las Véron justement. Tu nous diras ce qu'il vaut réellement. Beaucoup de questions déjà hein, pour ce joueur sur la chaîne Twitch RMC Sport et sur Direct Studio. Pause dans Génération After, spécial drôle de dame. Tout à l'heure, on parlera de Arsenal également, qui est impressionné face à Manchester United. Tiens, alors Julien va nous parler d'Edouard Nketiah, un peu plus son histoire. Qui est-il pour ceux qui le découvrent ces dernières semaines à la tête de l'attaque d'Arsenal? Restez avec toutes ces générations à faire sur RMC les 20h30. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Johan Crochet, Fred Hamel, Julien Laurence et Paulo Breitner. Comme tous les lundis soirs, elles sont réunies toutes les quatre de 20h à 22h. Génération After spécial drôle de dame. Je vous rappelle qu'à 20h45, on suivra aussi le dernier de la 16e de finale de Coupe de France entre Pays de Cassel et le Paris Saint-Germain avec Jeannot Rességuier. Et qu'à 20h45 également, c'est le traditionnel quart d'heure des auditeurs face au drôle de dame. Appelez le 32-16. Max est là pour vous répondre et vous permettre de poser vos questions à Fred, Julien, Johan et Paulo. Julien, dirais-tu que tu as vu le match de la saison en Première Ligue hier, celui qui a débuté à 17h30. Par français.
Ouais, en tout cas un des matchs de la saison, effectivement, Arsenal contre Manchester United, on avait hâte parce que c'était encore un gros test pour Arsenal vu la forme dans laquelle était Manchester United, même sans Casemiro qui était suspendu, et c'est une des raisons ou une partie du problème pour United qui fait qu'Arsenal l'a emporté, parce que cette équipe de Manchester sans Casemiro, c'est forcément pas du tout la même, tant défensivement qu'offensivement avec le ballon. Et on a vu les limites de cette équipe de United hier contre Arsenal à l'Emirates sans Casemiro, où finalement le seul plan de jeu était de donner le ballon à Marcus Rashford et d'espérer que l'international anglais fasse quasiment des miracles. Il a marqué le premier but, il a failli en mettre un deuxième tout seul aussi.
Super United premier a marqué but, un magnifique.
Ouais. Super premier but, ouais, c'est vrai. United a réussi à marquer un deuxième but sur coup de pied arrêté contre le cours du jeu en seconde période, mais du début à la fin, Arsenal a été la meilleure, a dominé, ils ont touché le ballon, on l'expliquait hier soir dans l'after. Ils ont eu 63 touches de balle dans la surface de réparation de Manchester United. 63, c'est le plus haut total en Premier League cette saison, toute équipe réunie, tout match confondu. De l'autre côté, United a touché le ballon 12 fois dans la surface d'Arsenal. Alors, t'es pas obligé de toucher beaucoup le ballon dans la surface adverse pour marquer des buts, bien sûr. Mais ça montre quand même, ça démontre en tout cas la domination d'une des deux équipes. C'était beau à voir la façon dont Arsenal a mis sous pression cette équipe de Manchester United lors des 20 dernières minutes pour aller trouver la faille et trouver ce troisième but pour gagner 3-2. Ils ont tiré 25 fois au but, ils ont eu leur plus haut expected goals de la saison avec 3,2. Donc c'est vrai, ça a montré encore qu'Arsenal était le favori pour être champion. Ils ont 50 points à la mi-saison, donc après 19 matchs.
C'est possible, c'est dingue.
Ils ont jamais eu autant de points dans toute leur histoire, notamment en première ligue. Il y a que 5 équipes en première ligue qui a eu plus de points à la mi-saison que Chelsea avec Mourinho, bien sûr, 2005-2006, le Liverpool de Klopp et le Manchester City de Pep Guardiola. C'est ça, 55 points, 51 points, 52 points. Et Arsenal maintenant avec 50 points rejoint cette élite là parce que
Napoli a aussi 50 points. D'Arsenal à l'époque en termes de rythme.
Exactement. Tout à fait. C'est vrai.
Comment on commence ce Arsenal en Angleterre justement? Est-ce que tout le pays est enthousiasmé et admiratif, ou le jeu des rivalités empêche de partir dans des délires, des loges et autres, Julien?
Non, un petit peu des deux. C'est vrai que tout le monde reconnaît que le style de jeu, la philosophie d'Arteta, la direction que cette équipe a prise depuis son arrivée au club, ce qu'ils sont en train de construire, ce qu'ils sont en train de faire est très impressionnant. C'est vrai, et qu'ils jouent très très bien. Après, bien sûr que les rivalités, les derbies font que supporters de City, de Liverpool, de Chelsea, de Tottenham vont pas s'enflammer pour Arsenal, bien sûr. Mais c'est vrai que globalement, on reconnaît l'incroyable travail qu'a fait Arteta, mais pas simplement. Et on n'a pas trop le temps non plus, mais sur le terrain, bien sûr, on le voit aujourd'hui, la façon dont cette équipe-là joue, son jeu de position qui est assez exceptionnel, les individualités. On a vu encore Bukayo Saka extraordinaire dimanche, le collectif aussi. Mais c'est le recrutement qu'ils ont fait depuis 3 ans, c'est qu'ils se sont débarrassés des joueurs qu'ils ne voulaient pas, qui finalement n'étaient pas dans le moule de ce qu'Arteta voulait faire. Les Aubameyang, les Ozil, etc., etc. Ils sont allés recruter intelligemment des jeunes joueurs. Parfois, ils ont dépensé beaucoup d'argent. 50 millions pour un Ben White, par exemple, c'est beaucoup. Ils ont aussi eu un petit peu de chance avec un Saliba, par exemple, qui était là avant l'arrivée d'Arteta. Mais quand tu vois l'effectif aujourd'hui et cette dynamique positive, et ce qu'Arteta voulait à son arrivée, c'était que tout le club, finalement, parle le même langage, tire dans la même direction, et c'est exactement ce qu'il a réussi à faire. Il a créé cette unité assez incroyable de la personne qui fait l'été, les jours de match, jusqu'au propriétaire.
Julien, petite question. Tu parlais du montant de transfert de Ben White. C'est un des plus gros transferts en montant de cet effectif-là, Arsenal, non?
Ouais, avec Partey, 50 millions d'euros pour Partey, un tout petit peu plus pour Ben White.
Est-ce qu'il y a des commentaires sur... parce que moi j'ai un peu ça avec le Napoli en Italie, en fait. Sur la qualité de jeu déjà, et tu as déjà répondu, mais sur aussi la base salariale, le montant des transferts par rapport à des concurrents. Tu vois, par exemple, Modric à 100 millions, Darwin Núñez à 100 millions, Anthony à 100 millions, Haaland à je sais plus combien. Tu vois, tous les autres clubs, ils mettent des 100 millions d'euros, des 80, des 90, des 100 millions sur les joueurs. Là, finalement, peut-être que le modèle d'Arsenal est aussi un modèle à suivre pour d'autres clubs, plutôt face à des clubs comme Chelsea qui balancent et qui arrosent sans arrêt, quoi.
Ouais, c'est vrai aussi. C'est vrai qu'il y a une synergie entre Arteta et Edu Gaspar, donc l'ancien joueur d'Arsenal et du Brésil qui est aujourd'hui le directeur sportif. Vinay Venkatesan qui est le directeur général du club, le CEO du club. Mais après, ils ont choisi cette voie-là. Ils auraient pu faire autrement. Je pense que les Kroenke auraient pu, par exemple, investir encore plus d'argent. Mais le problème, je crois, Yo, c'est qu'il y avait tellement finalement de joueurs à aller chercher, de joueurs à laisser partir, à vendre, à prêter, à terminer les contrats. Et d'autres à aller chercher, que finalement il fallait que tu le fasses de manière intelligemment, même si tu aurais pu dépenser un peu plus pour certaines individualités. Mais après, ils sont quand même allés chercher beaucoup beaucoup de joueurs. Quand tu signes 6, 7, 8 joueurs par marché des transferts, tu peux pas non plus trop dépenser à chaque fois ou surpayer parce qu'au final ça te coûtera beaucoup trop cher. Donc ils ont dû faire aussi les choses différemment par besoin, par nécessité.
Mais tu vois,
s'ils avaient besoin peut-être que d'un ou deux joueurs, oui, mais...
Parce que Liverpool, ils ont choisi de mettre 160 sur deux joueurs offensifs, mais par contre, le milieu de terrain qu'il faudrait renouveler,
c'est vrai.
Où ils ont fait un choix différent, et c'est un peu difficile en ce moment, quoi.
Ouais, c'est vrai aussi.
Un mot quand même, Julien, sur d'un joueur dont on a peu parlé de lundi soir dans le Dame, c'est Eddie Nketiah. Aucune titularisation en Première Ligue avant le Boxing Day. Il remplace Gabriel Jesus blessé. Il marque 6 fois en 6 titularisations. Raconte-nous un peu son histoire à ce joueur qui a quand même 23 ans déjà, hein, et que l'Angleterre ne découvre pas en revanche.
Non, c'est vrai, parce qu'il a été très bon par exemple avec l'équipe anglaise Espoir, mais c'est un joueur qui était au centre de formation de Chelsea, qui n'a pas été conservé quand il avait 14 ans je crois, ou 15 ans, qui a ensuite donc rebondi au centre de formation d'Arsenal sans qu'il y ait des doutes, mais c'était pas la grande star du centre de formation comme a pu l'être un Bukayo Saka par exemple, ou d'autres avant lui, et c'est quelqu'un qui a dû travailler beaucoup, est parti aussi en prêt un petit peu, a finalement signé, prolongé son contrat la saison dernière alors qu'il arrivait en fin de contrat l'été dernier. Alors qu'on savait que Arsenal est sûrement recruté un grand numéro 9 ou un vrai numéro 9. Ils ont fini par faire Gabriel Jesus, mais ils lui ont donné beaucoup d'argent aussi à Eddie Nketiah parce qu'il croyait en lui. Et je pense qu'il y avait beaucoup de pessimisme autour de sa titularisation après la blessure de Gabriel Jesus. Alors que c'est un joueur, si tu l'as vu jouer une fois, c'est pas parfait, bien sûr. On l'a vu contre Tottenham où il rate deux grosses occasions. Mais c'est un joueur qui est très bon dos au but, qui court beaucoup, qui presse, qui contre-presse énormément, qui a vraiment un gros coffre physique. C'est un joueur qui a une très belle mentalité, qui est un joueur du cru, puisque arrivé à 15 ans en centre de formation, c'est un joueur à toi, donc je pense qu'il porte ce maillot avec beaucoup de fierté. C'est quelqu'un qui habitait dans une famille d'accueil, pour être près du centre de formation de l'académie, donc à deux maisons de chez moi. Pas mon voisin direct, mais celui d'après, effectivement. Avec Lina, qu'on embrasse. Ah, et oui. Donc, c'était un très très bon gamin. Il a toujours été très très bon et il a jamais oublié d'où il venait. Et je pense que c'est ça aussi l'état d'esprit qui plaît à Arteta. C'est que il y avait beaucoup de pression sur ses épaules quand il a pris la suite après la Coupe du Monde de Gabriel Jesus. Et je pense que c'était pas facile. Le premier match contre West Ham, tu sentais qu'il forçait un petit peu son jeu parce qu'il avait cette pression de absolument devoir marquer un but pour montrer qu'il méritait d'être là. Le but est venu finalement en seconde période. Et puis depuis, tu l'as dit, hein, c'est une série assez incroyable.
6 buts en situation pour Eddie Nketiah, effectivement. Dans un instant, le coup d'envoi du match de Coupe de France, le dernier 16e de finale entre Pays de Cassel et le Paris Saint-Germain. Mais d'abord, Fred, il est 20h42, la minute de Fred Hamel. Envoie la musique, Paul Vexiou. Magnifique. Voilà.
Violetta Cipariales, Violette Impériale. Voilà, c'est Luis Mariano. Luis Mariano, tout le monde pense qu'il est français. Ben non, il était basque espagnol. Et pourquoi un chanteur basque espagnol, chanteur d'opérette? Ben parce que je vais vous parler de la Real Sociedad. Alors déjà, j'ai plusieurs fans de la Real Sociedad qui me suivent sur Instagram, qui me disent, mais tu ne parles jamais de la Real Sociedad. Pourquoi? Parce que j'attendais pour voir. Parce qu'ils me disaient, ben oui, mais la Real Sociedad, regarde, on est troisième. Ben oui, mais vous êtes troisième tous les ans. En septembre, en octobre. Mais à partir du mois de novembre, et ben, ça coince, ça descend, et puis après Noël, on vous voit plus. Et ben là, regardez, on est presque en février. La Real Sociedad, troisième de la Liga, qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Roi, ce sera mercredi, au Camp Nou face au Barça, et qualifiée comme premier groupe, donc déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Ça commence à être du sérieux. En plus, ils ont perdu la Real Sociedad, leur meilleur attaquant, Alexander Isak, qui est parti à Newcastle. Et ben voilà, la Real Sociedad fonctionne et elle a des stats de malade. La Real Sociedad, c'est 21 victoires en 28 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. 75% de victoires. Il n'y a qu'une équipe en Europe, parmi les 5 grands championnats, qui fait mieux. Arsenal, 22 victoires. Et il n'y a que le PSG pour être à la deuxième place en Europe. Pourquoi? Alors qu'il n'y a pas énormément d'argent. Mais il y a beaucoup de joueurs, il y a eu beaucoup de blessés, donc Alguacil, l'entraîneur, a beaucoup pioché dans l'équipe réserve. Il a fait jouer 33 joueurs et 22 étaient formés au club. Donc voilà, la réussite de la Sociedad, c'est pas le football bling bling. Il a fallu vendre pour avoir un petit peu d'argent, mais on forme bien les joueurs. Et puis là, et on va espérer que ça continue pour la Sociedad. La fameuse fringale qui arrive en général à l'automne, eh ben ils l'ont pas cette année. Ils ont passé l'automne. Et on espère pour la Real, parce qu'on l'appelle comme ça en Espagne, la Real. On espère qu'elle passe l'hiver.
Et puis on s'intéressera un jour à Robin Lenormand aussi, hein, titulaire indiscutable défense centrale de la Real Sociedad.
Un des bons défenseurs centraux de la Ligue espagnole.
Dont on parle très très peu en France, lui qui a 26 ans.
Ah, joueur en Angleterre, hein. Deschamps l'aura dit.
On a aussi Mohamed Ali Chou, hein, qui joue à la Real Sociedad. Le coup d'envoi, Jeannot Séguier, dans quelques secondes de ce dernier 16e de finale de Coupe de France entre Pays de Cassel et le Paris Saint-Germain au Stade Bollard. Le vainqueur de ce match affrontera l'Olympique de Marseille en 8e de finale. finale. Jeannot.
Oui, plein de belles images pour les joueurs amateurs de Régional 1, soutenus d'abord par 38 000 spectateurs à Bollard. C'est la 17e fois cette saison que le stade du Racing Club de Lens affiche complet. Cette fois-ci, c'est pour un match de Coupe de France face au Paris Saint-Germain. Des Parisiens tout de blanc vêtus avec Navas dans les buts, Pembélé à droite, à gauche Nuno Mendes, Danilo Ramos pour la charnière, Vitinha, Soler, Renato Sanchez au milieu de terrain, Neymar et Kitike et Mbappé pour le secteur offensif. Messi et Donnarumma ne sont pas du déplacement, et pour les amateurs, c'est une équipe classique qui a été alignée par Samuel Goethals. Rien à voir avec Raymond Goethals, mais c'est l'entraîneur de cette formation de Pays de Cassel. Sanson dans les buts, Thor, Smijac avec la défense centrale, Centrin à droite, Rapaille à gauche, Leclerc, Boudjema, Brunel sur le milieu de terrain, et puis Sané, Le Ganaz et Clément Boganski pour le secteur offensif de cette équipe de Régional 1 qui va prendre la photo pour les joueurs parisiens et les joueurs du Pays de Cassel. C'est quatre clubs réunis qui ont déjà fusionné dans un premier temps. C'est six communes de, au total, 6500 habitants, 400 licenciés face à l'ogre du Paris Saint-Germain. C'est tout simplement la Flandre intérieure, le Lyon qui est là, des Flamands avec les géants du carnaval qui étaient là aussi, la musique du carnaval avec la particularité des géants le lundi de Pâques à Cassel. Eh bien, tout le monde est là ce soir, tous les élus de la région Flandre, de la région du Nord aussi et des Hauts-de-France pour participer à cette fête incroyable. Et pourquoi pas vivre un moment sympa, en espérant bien évidemment que les amateurs pourront tenir le choc face au Paris Saint-Germain. Les U14 sont ramasseurs de balles, les U11 sont venus accompagner les joueurs et les tout petits bouts de chou débutants sont là pour aller donner le coup d'envoi de cette rencontre. C'est ça aussi la magie de la Coupe de France, avec, on le disait tout à l'heure, 45 bénévoles du club qui sont invités ce soir en loge et qui ne participeront pas donc comme ils ont l'habitude de le faire lors des rencontres de championnat de Régional 1, ou en accompagnant les jeunes, les gamins, les moins jeunes dans la vie du quotidien de ce club d'une fusion de 6 communes, donc avec une fusion qui est intervenue en 2018 de Régional 3, puis en Régional 2, puis en Régional 1 maintenant. Ils sont 3e au classement et ils veulent grandir petit à petit, mais ils veulent surtout apprécier ce soir, comme viennent le faire les 3 gamins, avec Kylian Mbappé qui a le brassard de capitaine du Paris Saint-Germain. C'est Willy Delageau qui va être l'arbitre de cette rencontre et qui va très certainement dans quelques secondes libérer les acteurs et libérer ces joueurs amateurs qui ont pris le temps de se retrouver tout à l'heure à la mi-journée pour prendre le bus ensemble. Chacun a un travail, qu'il soit éducateur, boulanger, pâtissier, électricien comme le capitaine Smijac, ou aussi supporter du PSG comme Smijac justement, et Boudjema qui font partie des ultras. Voilà, c'est parti, coup d'envoi donné par Kylian Mbappé avec Renato Sanchez, premier ballon pour les Parisiens, avec Neymar dans la moitié de terrain du PSG pour ses toutes premières secondes de ce dernier 16e de finale de Coupe de France.
Ah, tout à l'heure, Jeannot, sur ce match avec toi tout au long de la soirée, bien sûr, la génération after Drôle de Dame. Dans un instant, le quart d'heure des auditeurs face au DDD. Vous nous appelez au 32-16. Il y a déjà beaucoup d'appels. Vos questions à Johan, Julien, Polo et Fredo. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, génération after.
Nicolas Jamin.
Génération After spécial Drôle de Dame avec Fred Armel, Julien Laurence, Paulo Breitner et Johan Crochet. Très rapidement, Jeannot, en quelques secondes, c'est parti depuis 2 minutes entre le PSG et le Pays de Cassel.
Allez, 0-0, le ballon pour les Parisiens, vous vous en doutez. Une première occasion complètement manquée par Soler. C'est venu de la gauche. Il a un petit peu trop ouvert son pied et c'est passé à côté du but de Sanson. Les jeunes joueurs du Pays de Cassel, enfin les jeunes, les amateurs, parce qu'il y a quelques trentenaires, n'ont pas encore franchi la ligne médiane pour l'instant. 3 minutes quasiment de jeu et 0-0 entre Pays de Cassel et le Paris Saint-Germain.
Loïc est avec nous, 32-16. Salut Loïc.
Salut messieurs.
Bienvenue dans Génération After. Les drôles dames t'écoutent. Question pour qui, mon cher Loïc?
Alors, moi, je souhaitais avoir des renseignements sur notre ami Illich.
Ah, Ivan Illich.
Je pense Lénine, hein, mais est-ce que c'est un produit fini, comme dirait Longoria, ou est-ce que c'est un produit brut qu'il faut continuer à polir, un futur diamant?
Question pour Johan Crochet, donc, puisqu'il joue à l'Hellas.
Exactement, Johan.
Bon, produit fini, non, il est encore très jeune, donc il a encore le temps de
de progresser. Et très sincèrement, tu peux pas être un produit fini à cet âge-là. Après, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Évidemment, tout de suite, on va parler du fait qu'il a joué sous Tudor et donc il connaît le système, ce que demande Tudor à ses joueurs, etc., etc. C'est un joueur que j'aime beaucoup parce qu'il est élégant, pied gauche, soyeux, très bonne technique. Je trouve que c'est un peu en train de progresser, mais je le trouve un peu trop timide parfois. J'aimerais qu'il prenne un peu plus de risques parce qu'il a la qualité technique pour tenter des passes compliquées. Il a la qualité, la prédominance physique pour aller un peu plus au duel. Je pense que c'est plus un truc d'esprit que physique ou technico-tactique en fait. Mais encore une fois, il est assez jeune, il a le temps, mais
21 ans,
dans la capacité à imprimer le tempo, à aller faire du pressing, tout ça, il sait faire, il connaît tous les mécanismes, jouer à deux, jouer à trois, il sait faire. Il y a pas de problème. Il a quand même un peu de personnalité, mais je trouve qu'il en manque encore dans cette verticalisation qu'il doit apporter dans une équipe qui doit être très verticale. L'Hellas Vérone avec Tudor l'était. Moi, je trouvais que c'était pas, par exemple, le milieu de terrain qui brillait le plus sous Tudor. Là, cette saison, l'Hellas Vérone ne marche pas. Il reste au-dessus du niveau parce que, je vais me répéter, mais techniquement, il est ultra fiable. Mais par contre, j'aimerais qu'il soit un peu plus volontaire dans cette idée d'aller vers l'avant. Je trouve qu'il assure parfois un peu trop. Alors ça peut être un défaut de jeunesse, de vouloir trop assurer, de
trop horizontal,
propre, parfois clean, etc. Mais parfois, il faut oser prendre plus de risques. Parce qu'en plus, quand t'as pas cette qualité-là, pourquoi pas? Mais quand tu l'as, je trouve ça dommage parfois de pas assez le tenter. Mais honnêtement, c'est un vrai bon joueur. Moi, je l'avais profilé pour la radio digitale au moment de la Coupe du Monde
sur RMC.
Et moi, c'est un joueur que j'adore, qui est élégant, donc c'est ma cam forcément, et qui en plus a cette densité physique. Il lui reste un cap à passer sur comment être plus décisif dans la construction et comment être plus décisif dans le secteur offensif pour son équipe.
Et quand Tudor le connaît, il sait parfaitement ce qu'il peut en tirer, quelle est sa marge de progression pour l'Olympique de Marseille. Merci Loïc.
Merci.
Réponse de Johan. Chest est avec nous au 32-16. Je crois comprendre pour qui la question va être dirigée. Salut Chest.
Salut monsieur, bonsoir, comment allez-vous?
Chest, bon, salut Chest. Malheureusement, je crois que c'est plutôt britannique, mon cher Fredo.
Fabregas en Angleterre, il a beaucoup joué.
Un homme de goût.
Un homme de goût. Chest, question pour Julien Laurence.
Oui, question pour Julien. Alors, Julien, est-ce qu'on peut enfin, parler de Bukayo Saka dans la même phrase que tous ces jeunes Anglais qui font partie de la génération dorée qui arrive, c'est-à-dire les Phil Foden, les Bellingham ou même les Rashford, parce que moi qui suis ici à Londres, il y a encore beaucoup de personnes il y a quelque temps qui pensaient que Bukayo Saka était surcoté, et même sur RMC, je me rappelle, avec tout le respect que j'ai pour Daniel Riolo, il avait fait ses chapeaux, il avait préféré prendre Pulisic au lieu que de Saka, et ça faisait beaucoup réagir sur le plateau à l'époque, et moi aussi de mon côté quoi. Donc je voulais ton avis là-dessus aussi.
Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il fait partie des tout meilleurs. Il y a pas de là-dessus. Peut-être c'est le fait qu'il soit trop gentil, enfin qu'il est trop gentil, qu'il est juste. C'est quelqu'un qui est tellement simple, tu sais, qui fait vraiment pas de bruit en dehors des terrains. C'est peut-être pour ça qu'il a une image qui est peut-être pas au niveau du talent qu'il a et la saison qu'il est en train d'avoir. Parce que c'est un des meilleurs joueurs de Premier League cette saison. Il y a aucun doute là-dessus. Ce qu'il fait encore hier, c'est dans les 1 contre 1, c'est assez incroyable. Son intelligence de jeu. Encore une fois, il a que 21 ans. Il est né en septembre. Donc il a eu 21 ans, il y a pas longtemps en plus, et de voir le niveau qu'il affiche à cet âge-là, c'est assez incroyable. Je pense qu'il n'y a aucune limite pour lui. Plus il va grandir, plus il va gagner en maturité, en expérience, et plus il sera fort. Il y a des moments où j'ai eu un petit peu peur parce qu'il commençait à prendre beaucoup de coups, tu sais, par les défenseurs adverses.
Ouais,
et
ouais,
j'ai eu peur qu'il change un tout petit peu sa façon de jouer, notamment les 1 contre 1. Et au final, voilà, on a retrouvé le vrai Saka là. Je trouve que je suis tout à fait d'accord avec toi. Je me rappelle de Daniel qui l'avait pas mis en chapeau 1. J'étais scandalisé. On avait raison, Chess, d'être scandalisé.
Bah oui.
On lui pardonne, tu vois, mais non, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez incroyable, et je pense qu'Arteta lui a fait beaucoup de bien aussi, la façon dont Arsenal joue, d'avoir Odegaard dans sa zone. Je pense que ça lui fait beaucoup beaucoup de bien aussi, mais non, c'est un joueur, je pense qu'on va se régaler pour les 10 prochaines années minimum.
Chess, t'es pas un voisin de Julien Laurence à Londres, non, t'es dans quel quartier à Londres?
Pas vraiment, non, Julien est dans le nord, moi je suis dans le sud-ouest.
Ah, tu sais où habite Julien? C'est magnifique, mais quelle star c'est Julien.
Ah oui,
c'est il habite, il y a des tours à Londres sur un bus, et this is the house of Julien Laurence.
Et puis quand il sera mort, il y aura un truc,
plaque.
Et alors, il y a déjà UP ou pas? C'est un quartier UP où il est?
Middle class,
c'est pas mal quand même.
Ça va, ça va. On se débrouille. On fait ce qu'on peut, hein. On se débrouille.
Ouais. On se débrouille. Merci, Chess.
En tout cas, dernier un petit mot avec Martinelli, Saka et Nketia. Arsenal à la MSN, c'est tout ce que j'ai à dire. Bonne soirée, monsieur.
Bonne soirée à toi, Chess. Bonne soirée. On apprend à l'instant aussi, mais bon, c'est une confirmation, Julien. Hein. Jakub Kivior, hein, qu'on avait vu avec la sélection polonaise au mondial, notamment contre l'équipe de France, rejoint donc Arsenal, contrat jusqu'en 2028, pour 25 millions d'euros. Ça reste là aussi raisonnable. Après, c'est un jeune joueur à développer, quoi. 22 ans.
Vous en êtes à combien de centaines de millions d'euros?
Ah ouais, c'est très intéressant. Le bilan transfert hivernal Première Ligue.
Je sais pas.
On a dépassé le milliard, tu penses, ou pas? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout.
Non, je crois quand même pas. Mais non, parce qu'il y a plein de clubs qui n'ont pas beaucoup recruté finalement comparé au mois de janvier précédent, je pense. Mais je vais vous trouver le numéro d'ici la fin de la.
Alors, il y a quelques jours, il y a 5 jours, la Première Ligue avait dépensé 320 millions d'euros devant la Liga 19, la Bundesliga 16, la Ligue 1 10 et pas la Serie A 6.
Pas mal.
Non, mais vous êtes des pauvres.
C'est un autre.
Et on est fiers d'être pauvres, Laurence. On est très fiers.
Ça sert à rien de donner ces chiffres-là pour les autres.
Polo, une réaction?
Des 10 millions par-ci, des 3 millions par-là, 50 euros.
A fait 50 un euros super recrutement avec Juranovic en provenance du Celtic Glasgow pour 8,5 millions. 8 millions et demi plus bonus. Donc moi, je suis heureux comme tout.
T'es heureux comme tout, ça suffit. Voilà.
Bah, c'est-à-dire que l'Angleterre a dépensé 5 fois plus à elle toute seule que les 4 autres grands championnats.
Eh bien, bravo les Anglais. Ils ont bien vendu leur championnat depuis des années.
C'est beaucoup de Chelsea, hein, aussi. C'est beaucoup de Chelsea.
Bah oui, mais bon.
Chelsea tout seul, hein.
Reste avec nous, Génération After, dans un instant. Rapidement, Jeannot Segui avant la pause. Pays de Cassel, Paris Saint-Germain.
10 minutes de jeu, toujours 0-0. Un ballon déquitiqué pour Kylian Mbappé qui met le ballon au fond des filets. Le drapeau s'est levé. Il n'y a pas de VAR en Coupe de France avant les quarts de finale. Il était bel et bien en position de hors-jeu. Et au bout de la 6e minute, on a vu les amateurs avec Brunel, notamment l'ancien de Dunkerque, mettre un ballon en profondeur pour le Ganaz, l'attaquant et buteur de cette équipe. Mais voilà, c'est compliqué. Ils défendent. Et pour l'instant, ils défendent plutôt bien. 10 minutes de jeu, 0-0.
Génération After, on revient dans quelques secondes. À tout de suite.
Génération After.
RMC.
32 x 22, ça va faire 500. 32, non, 600. J'ai perdu.
C'est la stat qui permet d'estimer la probabilité qu'un tir cadré finisse en but selon où il arrive dans le but.
Fabinho qui est moins la lance de lancement.
La
rampe de lancement.
J'adore.
Pardon,
Chris. Il faut jamais critiquer le meilleur joueur du monde. Sinon on est un gros con. Voilà, je suis un con, Cristiano a marqué.
20h-22h, Génération After.
Nicolas
Jamin. Génération After avec une bande de dingos, un petit peu quand même. Fred Hermel, Julien Laurent.
C'est vrai, j'avais la honte.
Paulo Breitner et Johan Crochet. Tiens, d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, Carlo Ancelotti a poussé un petit coup de gueule en conférence de presse pour la victoire du Real à Bilbao. Respectez Vinicius. J'entends trop d'insultes sur ce joueur. Non, évidemment, j'ai pensé à toi, mon cher Fred.
Non, le problème, c'est pas les insultes, c'est les coups de pied qui se prend, quoi.
Oui, enfin, il a dit des supporters adverses qui l'insultent, les adversaires qui mettent des coups.
Mais c'est les coups qui se prend, c'est dingue. Et franchement, et lui, il est encore jeune.
Est-ce qu'on mérite un peu parfois sur un terrain quand on prend des coups? Moins sur 3.
Le mec, il est dribble, il est très fort, il est dribble. Donc, les mecs, ils se font avoir. Parce que c'est vrai que, non, mais quand t'es joueur de foot, t'es défenseur, t'as Vinicius qui te fait un grand pont ou il fait un petit pont, ouais, tu te sens pas bien, ouais. C'est vrai qu'il a un jeu qui énerve.
On avait les mêmes débats avec Neymar au Barça. Il prenait des coups sans arrêt et on se disait, est-ce que c'est normal, pas normal? Enfin, moi, je trouve que là, t'es un mec parce qu'il est bon techniquement.
Mais non, bien sûr. Polo, t'as un exemple en Bundesliga, dans l'histoire de Bundesliga, d'un joueur qui prenait des coups, qui énervait, agacé parce qu'il était techniquement.
Pour rester sur l'Espagne, enfin, aujourd'hui, on se plaint qu'il se prend des coups, mais regardez ce que se prenait Maradona dans les années 80.
Ah,
c'est la rigolade. Aujourd'hui, les mecs, il se prend un coup, le mec, il est mort, quoi.
Avec Hugo Chéas, ce qu'il avait fait.
Comparé à ce qui se passait dans les années 80, ça n'a rien à voir. En ce moment, bah ouais, il y a pas mal de joueurs qui s'en prennent. Bah, Moussiala, par exemple, il s'en prend beaucoup. Même si c'est souvent assez large en ce moment les marquages, mais voilà, c'est un cas particulier. Ouais.
Avant d'ouvrir le dossier Juve, hein, qui est le dossier de la semaine, voire de la saison, les 15 points de pénalité pour la Juve, les tours par la Coupe de France, à Bollard, Pays de Cassel, Paris Saint-Germain, Jeannot Rességuier.
Et le quart d'heure de jeu, toujours ce score de 0 à 0 pour l'instant. Etienne, les joueurs de Régional 1, les amateurs de Pays de Cassel face au Paris Saint-Germain. Deux situations, au-delà du but refusé logiquement pour position d'hors-jeu à Kylian Mbappé avec Soler. Encore une fois, pied gauche là, qui ouvre ce ballon par complètement en dehors des limites du terrain, alors qu'il avait Neymar tout seul pour l'instant dans ses choix. Soler, c'est un petit peu compliqué, et pour les joueurs de Pays de Cassel, ils essayent, en tout cas quand ils ont le ballon, ils l'ont pas souvent, mais quand ils l'ont, ils essayent de l'exploiter avec un joli petit technicien qui s'appelle Leclerc, qui est au milieu de terrain et qui régale là depuis tout à l'heure, et qui essaye de remonter le ballon là, comme le fait à l'instant même Collé, pour aller chercher dans le couloir Boudjema. On revient encore dans l'axe avec le Ganas. Là, ils sont venus dans la moitié de terrain des Parisiens, c'est rare, autant le souligner, avec Leclerc. Et là, pour l'instant, au niveau des lignes, ça s'est resserré, il n'y a pas beaucoup d'espace, ça va pas être simple, mais ça on le savait déjà. 16 minutes de jeu et pour l'instant 0 à 0, alors qu'il y a un joueur au sol, c'est Brunel qui s'est fait mal sur l'action précédente, qui a pris un coup sur un duel. L'un des rares joueurs à avoir évolué au-dessus du National 2, puisqu'il a joué 24 matchs en Ligue 2 avec Dunkerque et 43 matchs en National. Il a été puni, sanctionné récemment dans l'affaire des paris. Il avait été suspendu pendant deux matchs, il n'avait pas pu jouer le tour précédent face à Wascal. Ce soir, il attendait avec impatience de retrouver une équipe professionnelle. C'est le cas. En tout cas, il est titulaire. Ça va mieux pour lui. 0-0, 16 minutes de jeu à Bollard.
Stupeur en Italie. La cour d'appel de la Fédération italienne de football a donc infligé à la Juve un retrait de 15 points vendredi, rétrogradé de la 3e à la 11e place de Serie A, à 14 points de la Ligue des Champions. Johan, tu vas nous dire dans un instant comment on réagit en Italie. Bien sûr, Fred, Polo et Julien, n'hésitez pas aussi, hein, c'est un sujet qui nous intéresse tous, qui va peut-être nous intéresser dans les prochaines semaines, sait-on jamais également, même si ça semble être une spécificité italienne. D'abord, Johan, comment l'Italie a réagi? C'est une déflagration vendredi soir quand ça sort.
Oui, une déflagration. Après, parce que la sanction est énorme. Je veux dire, 15 points en moins, on n'est pas en train de parler de 2 ou 3 points pour une fraude quelconque ou voilà. On est en train de parler de, t'enlèves quasiment la moitié des points d'une équipe. Donc, forcément, c'est très impactant. Après, moi, ça me fait marrer parce que, le système des plus-values, ça fait des années qu'on en parle, etc. Et que là, d'un seul coup, tout le monde se dit, ah ouais, mince, c'est problématique, les plus-values.
Rappelle-nous concrètement en quelques mots de manière très claire, c'est pas évident.
Oui, non, mais c'est assez simple, en fait. Là, on va parler juste du système. Les plus-values, on les appelle les plus-values artificielles en italien, en Italie, pardon, parce qu'on estime que les valeurs des joueurs sont gonflées. Je vais vous passer tout le côté économique de quand on recrute un joueur, on peut amortir le montant du transfert et du salaire sur les années de contrat.
Lisser
les salaires et le montant du transfert. Et puis, à l'inverse, quand on vend, tout vient sur le bilan en cours. Donc ça, c'est très pratique. Quand vous vendez un joueur 60 millions d'euros, sur le bilan en cours de l'année, de la saison, si ça termine au 30 juin, vous avez 60 millions. Donc ça, c'est très, très facile à comprendre. Ce système-là, en Italie, il y a un vrai problème, mais il vient pas de nulle part, en fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Italie a raté sa mue économique. Parce qu'en Italie, pendant des années, des dizaines d'années, je vais pas remonter forcément hyper loin, mais on va années 80, 90, 2000, c'était le football des familles. On l'appelle le football des familles. Pourquoi le football des familles? Parce que c'était des familles italiennes très riches qui étaient à la tête des clubs. La famille Moratti à l'Inter, les Berlusconi à Milan, les Sensi à Rome, évidemment,
Agnelli à Juve,
il y a à Turin, mais il y avait aussi les Cragnotti, etc. etc. Et ces gens-là étaient forcément très riches. D'ailleurs, ils venaient souvent des industries ou de l'économie, du pétrole et des médias, deux choses qui dans les années 90 ont explosé et qui ont ramené beaucoup 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 d'argent. Et donc ils avaient beaucoup d'argent. Et en fait, ils avaient pris un club parce qu'ils souvent ils étaient supporters de ce club-là. Et puis c'était un peu leur danseuse. Voilà, ils injectaient beaucoup d'argent parce que ça leur faisait plaisir. Ça leur créait leur petite dose de testostérone le week-end, d'adrénaline le week-end pour les matchs. En même temps, ils avaient les supporters qui étaient super contents parce qu'ils injectaient de l'argent, des super joueurs qui arrivaient, on prenait les meilleurs Brésiliens, les meilleurs Argentins, les meilleurs Italiens, etc. etc. Et puis on s'intéresse pas trop aux rentrées d'argent parce qu'il y avait tellement d'argent que franchement, s'ils réussissaient à faire des contrats de sponsoring ou des droits commerciaux ou vendre des loges,
puis,
ça,
les footballeurs étaient moins chers aussi.
Oui, oui, ils étaient moins. Ouais, mais enfin, c'est pareil. L'économie de l'époque, quand tu la compares, enfin, c'est difficile de comparer simplement les prix de transfert, alors que l'économie était très différente aussi à l'époque. Je pense que si tu fais le ratio, on ne doit pas être si loin quand même entre les deux périodes. Et donc, ça, c'était le football des familles, parce qu'à l'époque, l'économie italienne, ça allait à peu près, et il y avait des gens très fortunés. Puis au milieu des années 2000, l'économie italienne, mais on peut même dire l'économie européenne, un peu partout, se casse un peu la figure, et bah, les familles, elles commencent un peu à tirer la langue. Donc elles dépensent beaucoup d'argent, puis commencent à se dire,
pas de rentrée,
il nous coûte cher ce club quand même. Donc là, on commence à voir les premiers signes très inquiétants. Au début des années 2000, la faillite de la Lazio, la faillite de Parme, la faillite de la Fiorentina. On commence à se dire, c'est pas des petits clubs en plus, hein, c'est pas Vicenza ou des petits clubs comme ça. Donc on se dit bon. Et puis après, on commence à voir la Roma. Ah là, la Roma quand même, la Lazio plus la Roma, les deux clubs romains. La Roma obligée d'être récupérée par la banque qui faisait crédit à la famille Sensi, qui était dans le pétrole. Sauf qu'au milieu des années 2000, le pétrole, ça commence à se casser la figure. En tout cas pour les européens, je parle pas des gisements à droite à gauche, mais pour les entreprises européennes, c'est un peu plus compliqué. Et donc ils avaient moins d'argent. Et puis là, ils se sont dit, on n'a pas de rentrée d'argent, on dépense beaucoup, comment on fait? Ils se sont dit, on va arrêter de dépenser. Ils ne se sont pas dit, on va faire rentrer de l'argent. Ils se sont dit, on va arrêter de dépenser. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de clubs ont commencé à être vendus aux alentours des années 2010, etc., etc. Et puis il y a deux choses qui sont arrivées. La première, c'est que la fédération a commencé à mettre des mécanismes en place pour quand même réguler un petit peu plus les choses, avec le fameux indice de liquidité qui permet de savoir si t'es solvable à la fin de la saison, prévoir en tout cas que tu sois solvable jusqu'à la fin de la saison. Même si c'est un peu une farce, hein, très sincèrement, parce que à chaque fois que les clubs gueulent, ils baissent l'indice de liquidité, donc comme ça, le pouvoir des clubs en Italie sur la fédération et la ligue, c'est indécent. Et puis la deuxième chose, c'est l'instauration du fair play financier pour les clubs européens, les gros clubs, parce que là on va parler essentiellement de gros clubs. Et quand le fair play financier est arrivé, il a fallu regarder du côté des déficits. On s'est dit, oulalalala, quand on perd 200, 300 millions d'euros par an, là, on pourra plus trop le faire.
Le cas de l'Inter, notamment, la Juve.
L'Inter, le Milan, la Juve, la Roma, la Lazio, tous, quoi. Et ils se sont dit, comment on va faire? Alors, ils se sont dit, on va peut-être accentuer une chose. Il faut se souvenir que depuis des années et des années, déjà dans les années 90, etc., il y a un système qui s'appelait le système de copropriété. C'est un système seulement en Italie, évidemment, parce qu'on est toujours bon pour inventer des nouveaux business dans le foot en Italie, où on pouvait détenir un joueur à 50% à parts égales entre deux clubs. On disait, ce joueur-là, je te le vends 50% pour 2 millions d'euros. Et puis le système voulait que ça durait un an ou deux ans. On définissait un accord comme ça, 50% un an ou deux ans. Et à la fin de la période, vous trouviez un accord. Moi, je te propose 2 millions pour acheter les 50%, je te propose 10 millions, peu importe, etc. Si tu ne trouvais pas d'accord, il y avait le système des enveloppes. En plus, dans le show, c'est génial. En Italie, on a toujours le truc du show, etc. On disait, écoutez, vous allez prendre un morceau de papier. Chacun, vous allez mettre ce que vous êtes prêt à payer pour les 50% de l'autre. On va mettre dans une enveloppe à l'aveugle. Et puis, on va ouvrir les grandes enveloppes. Puis, on va trouver le gagnant. Genre, le juste prix, quoi. Et des fois, ça jouait à 1000 euros. Je vais vous donner un exemple. Matteo Politano, qui est aujourd'hui à Naples. La Roma avait vendu 50% à Pescara. Puis, au bout de deux ans, on fait quoi de Politano? Pas d'accord. Pescara, ils disent, nous, on est prêt à mettre 600 000 euros pour acheter les 50% de la Roma. La Roma, ils disent, nous, on est prêt à mettre 601 000 euros pour acheter les 50% de Pescara. Donc, pour 1000 euros, Politano est revenu à la Roma. Et ce système-là permettait toutes les magouilles hallucinantes, parce que pour équilibrer un bilan financier, il fallait des rentrées d'argent. Pour les rentrées d'argent, on disait, les 10 jeunes, là, on va mettre 2 millions d'euros, on va les vendre chacun 2 millions d'euros pour 50%, hop, 20 millions d'euros de gagnés. Sans rien faire. Tu fais quasiment rien. Ton joueur, il t'appartient encore à 50%. Puis là, c'est quand t'en faisais 20 à 2 millions d'euros, mais tu pouvais en faire 40 à 5 millions d'euros. J'exagère volontairement, je grossis le trait, hein. Mais ça permettait de faire rentrer beaucoup d'argent. Et le système des plus-values, ça vient de là. C'est qu'en 2015, ils ont arrêté ce système de copropriété parce que la fédération, c'était autorisé par la fédération dans les règlements, la fédération s'est quand même dit, il commence à y avoir un peu trop de magouilles, là, ça commence à se voir, là, quand il y a 100 joueurs sous contrat, dont 50 qui sont en copropriété, ça commence un peu trop à se voir. Je rappelle que Parme a une deuxième fois fait faillite, ils avaient plus de 200 joueurs sous contrat. Petit exemple au passage du florilège en Italie. Et donc ils se sont dit comment on va faire rentrer de l'argent maintenant. Et donc là ils se sont dit on va être un peu créatif. Les premiers options avec obligation d'achat ou prêt pendant deux ans avec obligation d'achat derrière ou les ventes mais derrière avec la recompra comme on dit chez toi, je pense sans doute très très mal, mais le rachat derrière, la clause de rachat derrière. Tout ça, les premières sont venues en Italie. On vend un joueur 20 millions, puis on se dit, on met une clause de rachat à 18, comme ça vous prenez déjà les 20 millions d'euros sur votre exercice, puis au pire, si vous le rachetez 18 dans un an, avec les 50 contrats que vous allez lui donner sur l'amortissement, tout bénef pour vous, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que l'Italie a mis le doigt dans un engrenage qui est infernal.
Il n'a pas réussi à en sortir.
Clairement pas, parce que plus tu fais venir deux joueurs, plus tu essayes de faire ce système-là, sauf qu'après, tes amortissements, ça grossit.
Ouais, c'est un peu les subprimes aux États-Unis en 2007.
Exactement.
C'est ça, on va développer sur les conséquences surtout. Hein,
la Juve
et d'autres clubs pourraient être impactés et pas les moindres en Italie, les gars. Puis votre avis également, Polo, Julien et Fred là-dessus, si vous en avez un, bien sûr. Hein.
Ouais, parce que moi j'ai Barça qui a fait un truc comme ça avec la Juve, avec Pjanic et Arthur.
Oui, plus des jeunes aussi.
Même des clubs français qui ont eu des transactions récentes avec la Juve. Ouais. On pourra en parler aussi. La Coupe de France, Jeannot Séguier à Bollard, Pays de Cassel, Paris Saint-Germain.
Ouais, avec une faute à l'instant même là de Neymar sur Boudjema à l'entrée de la surface de réparation de Pays de Cassel. C'est un ballon qui va être rendu aux amateurs de Régional 1. Neymar, je vous en parle parce qu'il y a eu, on va dire, une bonne minute où les Parisiens ont joué à 10 contre 11. Et d'ailleurs, là, ils ont un peu profité, les joueurs de Pays de Cassel, en régalant et en essayant d'être dangereux par l'intermédiaire de Koné et de Le Gana. Garbi est à l'échauffement. Il y a un petit souci avec le genou droit de Kylian Mbappé, de Neymar, qui est venu pendant un moment discuter avec le docteur Baudot, qui lui-même a fait le rapport derrière à Galtier pour essayer de comprendre ce qu'il a. Il a ressenti une douleur. La pelouse n'est pas géniale. Elle est abîmée à Bollard. On l'a déjà souligné à plusieurs reprises. Est-ce que ça vient de là? En tout cas, on l'a vu tout à l'heure sur une tentative de changement d'appui, effectuer un petit test au niveau de son genou droit. Là, il est un peu en dehors du match. Il fait deux fautes consécutives. Ça lui vaut d'ailleurs le premier carton jaune de la partie. Donc à surveiller peut-être l'histoire de genou pour Neymar. Et toujours 0-0.
Et toujours 0-0 entre Pays de Cassel et le PSG. On fait une pause un instant, on prolonge sur la Juventus. Vos questions également à Johan Crochet. Les conséquences pour la Juve qui n'a pas encore dit adieu à la Coupe d'Europe la saison prochaine. Et puis tous ces dirigeants, dont Pavel Nedved également, qui sont interdits d'activité dans le football pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. A tout de suite, c'est les narrations After spécial Drôle de Dame.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Génération After, spécial Drôle de Dame, comme tous les lundis soirs de 20h à 22h. Il y a un match en Italie, je ne l'ai pas dit pour l'instant, l'Inter, hein, qui peut reprendre la deuxième place de Serie A, qui reçoit Empoli, 0-0 après 30 minutes de jeu, mais il y a surtout un match de Coupe de France, Jeannot Séguier, Pays de Cassel, PSG, dernier, 16e de finale de la compétition, le vainqueur affrontera l'Olympique de Marseille.
Et le chrono qui tourne, 28 minutes de jeu, toujours 0-0 entre le Paris Saint-Germain et Pays de Cassel, club de Régional 1, 6e niveau du football français. Neymar, je vous le disais, avec son petit souci de genou, est revenu dans le match, mais il en est un petit peu sorti avec ce carton jaune qu'il a reçu. On a vu un bon ballon de la part de Leclerc qui sort pour Boudjema et qui veut le mettre dans l'espace sur le Ghanaz. Attention avec Mbappé, le premier but à l'instant même à la 28e minute, ça vient de la gauche avec le débordement de Nuno Mendes. Brunel est là, il touche le ballon du bout du crampon sur le plat du pied de Kylian Mbappé. C'est lui qui la touche en dernier. Sur ce geste là, le gardien Sanson ne peut strictement rien faire. Kylian Mbappé, pour la première fois depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, capitaine au coup d'envoi d'une rencontre officielle avec le brassard, il est buteur. 1-0 pour le Paris Saint-Germain à la 28e minute pour l'ouverture du score.
Ah, tout à l'heure, Jeannot, 1-0 donc pour le PSG. Vous écoutez Génération After spécial Drôle de Dame. On parle de la Juventus Turin, donc qui a été pénalisée de 15 points. C'est ce que l'association dont avait été frappé le Milan au Calciopoli. Je me rappelle dans le Calciopoli, mon cher Johan. Bon, la Juve, elle avait été rétrogradée en série B avant de remonter la saison suivante. Quelles conséquences pour la Juve? On va en parler dans un instant. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous veut réagir hors Johan, qui va nous dire les conséquences d'un instant. Fred et Polo aussi peut-être.
Alors moi je vais poser la question à Johan parce qu'il y a une affaire qu'on a bien connue. On l'avait expliqué à l'époque, hein. Cet échange, ce faux échange entre Pjanic et Arthur. À l'époque, Arthur était joueur du Barça, Pjanic était joueur de la Juve. Le Barça avait payé 60 millions pour que Pjanic viennent au Barça, et la Juve a payé 75 millions pour que Arthur vienne au Barça. On aurait pu dire, tiens, on fait un échange avec 15 millions d'euros. Ben non, justement, c'était ce genre de choses. Alors, est-ce
double transfert.
Ce double transfert. Pour faire ce que tu disais, justement, pour respecter le fair play financier, notamment en Espagne, avec le qui est très, très, très sérieux, au niveau de la Liga, ça faisait justement le fait de pouvoir avoir officiellement cette entrée d'argent de 75 millions d'euros et puis les 60 millions de les amortir pour le salaire de, enfin pour l'achat de Pjanic. Est-ce que au niveau européen ça peut avoir des conséquences pour ce qui m'intéresse moi,
oui.
C'est-à-dire que le Barça, c'est-à-dire est-ce qu'il se passe en Italie peut intéresser l'UEFA et est-ce que ça peut gêner et porter à conséquence pour des clubs qui ont fait ce genre de business avec les clubs italiens?
Alors, niveau européen, j'ai du mal à voir parce qu'il faudra un règlement. Il faudrait chercher dans les règlements européens si une telle chose existe ou pas.
Confront pour le PSG, messieurs, à l'entrée de la surface de réparation, 31e minute, la faute de Brunel sur Neymar, stupide, elle aurait pu être dangereuse, ça lui a valu un carton jaune au milieu de terrain de Pays de Cassel, c'est Paris qui mène 1-0 avec le but de Kylian Mbappé à la 28e minute, la course d'élan très courte de la part de Neymar, on est à 20 mètres face au but, ça passera largement au-dessus, à la lucarne droite du but de Sanson, on en reste à 1-0 pour le PSG face à l'US Pays de Cassel, club de Régional 1.
Je te laisse répondre, Johan, à Fred.
Oui, donc il faudra voir si la justice espagnole décide de faire quelque chose ou non sur ce transfert-là. Moi, je me souviens, j'avais écrit un papier en 2020 sur ça, sur les plus-values fictives. Et l'UEFA, quand on en interrogeait l'UEFA, disait ben, on s'y intéresse, on regarde ce qu'on peut faire, etc. 3 ans après, il n'y a toujours rien de fait au niveau de l'UEFA. Mmh. Après, là, il va y avoir une branche sur le cas spécifique de la Juve. L'UEFA a déjà annoncé, c'était je crois juste après la Coupe du Monde, qu'ils allaient étudier le cas, non pas étudier toutes les machins, etc. Juste, ils vont voir si la Juve est sous settlement agreement de avec l'UEFA pour le fair play financier, donc pour rentrer dans les clous des paramètres du fair play financier. Et la Juve a donné des chiffres pour ça. Et donc l'UEFA va juste revérifier les chiffres pour voir s'il n'y a pas eu des chiffres gonflés pour minorer l'accord avec l'UEFA. Oui, c'est ça que regarde l'UEFA pour le moment. En dehors de ça, j'ai du mal à voir parce que même... pour aller très vite, mais.
Il y a le deuxième but pour le Paris Saint-Germain, mouvement à deux entre Kylian Mbappé et Neymar. 32e minute de jeu. Le crochet extérieur de Mbappé pour se débarrasser d'un milieu de terrain dans son repli défensif. Le crochet extérieur de Neymar pour se débarrasser de Smijak, le capitaine, et également de Sanson, le gardien qui était venu à sa hauteur. Le ballon est touché par le buste du gardien, mais ça franchit la ligne et 2-0 pour le PSG. 32e minute, vous entendez les sifflets à Bollard parce que le public a pris un petit peu en grippe Neymar. Ouais, Mbappé et Neymar, les deux buteurs parisiens, 2-0 face à l'US Pays de Cassel.
Le geste de Neymar n'est pas très...
Oui, la chambrée en fait. Neymar, tout simplement.
Chambrée des équipes régionales. Ouais. Oui, bien.
Vas-y, Johan.
Je sais plus où j'en étais.
Alors, je vais donner la parole à Polo, justement. Je vais écouter Polo également là-dessus. Ton regard sur la sanction qui frappe la Juve.
Alors, je ne vais pas dire ce que je pense économiquement du foot italien depuis des années.
Si, Polo, tu es là pour ça.
Non, mais moi c'est pas important. Ce qui est important, c'est comment c'est vu en Allemagne. Est-ce que vous vous rappelez la phrase de l'ancienne chancelière allemande lorsqu'elle parlait de la crise économique, ouais, Angela Merkel, lorsqu'elle parlait de la crise économique en Grèce et qu'elle avait dit les pays du Club Med, quoi. L'image, une fois de plus, de l'Italie en l'occurrence, et parce que l'information est arrivée, a été traitée d'une façon informative, de voir que comment l'Allemagne qui tente, et non avec beaucoup de caricatures d'ailleurs, d'avoir des comptes de résultats pour les clubs à l'équilibre au minimum ou avoir des pertes minimum, l'image est dramatique du football italien en Allemagne. J'ai envie de dire une fois de plus, c'est-à-dire on n'en sort pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour la population allemande? Ça veut dire on peut pas leur faire confiance. Parce que, je vais vous donner un autre exemple qui n'a rien à voir avec l'histoire en cours. Johan a juste raison, nous dit que Naples en ce moment ça marche bien et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on retient en Italie de Naples? On retient pas le jeu actuel ou s'ils vont battre Francfort en 8e de finale de Ligue des
Champions. Et le troisième but pour le Paris Saint-Germain, c'est la correction là. Et c'est un peu logique face à l'équipe de Régional 1, il suffisait d'en mettre un pour tout déclencher. 28e minute Mbappé, 33e minute Neymar. Et à l'instant même, 34e, 35e minute, le ballon qui vient de derrière, loin de derrière, de la part de Danilo, qui est en défenseur central avec Sergio Ramos. Le ballon est parfait au-dessus du milieu de terrain et de la défense de l'US Pays de Cassel. Et ça arrive dans la course, juste derrière Smijak, le capitaine, lui qui est fan du PSG et de Kylian Mbappé. Sauf que Mbappé, lui, récupère le ballon, contrôle, enchaînement, petit lob sur le gardien Sanson. Ça fait 3-0 pour le PSG face à l'US Pays de Cassel.
Mais on va directement vers un OMPG au Stade Vélodrome le 7, 8 ou 9 février. Polo, je
juste
finir.
Là-dessus, bien c'est sûr. Que qu'est-ce qu'ont retenu les médias allemands lorsqu'ils expliquent le miracle de Naples, c'est pas le jeu produit, etc. Ils constatent, et ça je parle sous le contrôle de Yann, que c'est l'année dernière 138 millions de pertes. Et ça, en Allemagne, quand tu vois les problèmes actuels du foot européen, sans critiquer telle ou telle personne, tel ou tel pays, etc. Comment veux-tu que les Allemands se disent sur qui peut-on compter pour essayer de faire un football plus équilibré, en supposant évidemment que les Allemands sont plus vertueux que les autres, ce qui est aussi très caricatural. Mais si tu veux, l'image du football italien a toujours été assez dégradée, alors qu'ils battent souvent les Allemands, mais ce genre d'affaires, on dit « ah bah oui, encore ». Donc c'est très compliqué de construire un football européen, de savoir sur qui tu vas t'appuyer lorsque systématiquement tu te retrouves devant ces adversaires. Et on parle de la Juve. La Juve est très appréciée en Allemagne. La Juve, elle serait presque un club allemand, tu vois, par rapport à son histoire, par rapport à différentes choses. Donc c'est compliqué quand même.
Non, mais enfin, l'observation est très juste de Polo. Moi, je peux rien dire d'autre que oui, ça dégrade totalement l'image du football italien et c'est pas fini. Parce que c'est peut-être une chose qu'on peut aborder maintenant, mon cher Nico. C'est les conséquences que ça peut avoir sur d'autres clubs.
On va en parler. On va en parler, mon cher Julien. Je veux également Julien. Comment c'est traité en Angleterre? Est-ce que c'est un sujet chez toi?
Ouais, forcément. Hein, ça a été beaucoup commenté, beaucoup analysé, beaucoup étudié aussi parce qu'il y a des ramifications, par exemple à Tottenham, puisque Fabio Paratici, qui était l'ancien directeur sportif de la Juve, a été sanctionné, a été suspendu. Cette suspension qui pourrait être élargie à l'UEFA, à la FIFA, donc il pourrait ne plus avoir ce poste-là ici à Tottenham. Donc ça pourrait impacter sur l'avenir d'Antonio Conte. Donc forcément, on en a beaucoup parlé. Après, c'est un problème que les Anglais n'ont pas. Sans faire d'humour ou que ce soit, mais parce qu'ils ont trop d'argent pour mettre en place des mécanismes comme celui-là, en fait. comme Yul l'a très bien expliqué tout à l'heure, donc c'est vrai que c'est pour eux, ça n'a pas vraiment venu à l'esprit, mais on a beaucoup, beaucoup parlé effectivement de ce qui est arrivé à la Juve.
C'est vrai qu'il y a aussi Joao Cancelo, un transfert Juve City Danilo, plutôt, ouais. Danilo, en échange.
C'est pareil, mais
ça c'est un peu différent.
C'est un peu différent, et puis même. C'est une notion qui est difficile parce que qui juge de la valeur des joueurs? Ça, c'est une question qui est vraiment très difficile, en fait. Alors, il y a des trucs qui paraissent tellement gros que oui, ça paraît évident. Mais moi, quand on prend l'absus, le double transfert Danilo-Cancelo. Cancelo, c'est 67 millions d'euros à City. Est-ce que ça vous choque par rapport à Kyle Walker qui est à 60 millions d'euros pour City?
Bien sûr.
Pas spécialement. Et Danilo, c'est 37, je crois, Julien, à la Juve. Un joueur qui vient de City à la Juve, est-ce que ça choque spécialement Danilo 37 non plus?
Non.
Pas forcément. Il y a d'autres transferts qui sont à la Juve et ailleurs, on va y venir, qui me paraissent.
Alors vas-y. Quels sont ceux qui te paraissent improbables, en tout cas surévalués, bien sûr?
Alors, évidemment, la Juve s'est fait prendre la main dans le sac parce qu'ils étaient sur écoute téléphonique et qu'en fait, la justice sportive italienne, il faut distinguer deux choses, la justice sportive et la justice ordinaire. La justice sportive, à travers la Fédération italienne de football, avait dans un premier temps rendu un jugement d'acquittement. Et c'est la justice ordinaire qui est revenue vers la justice sportive en disant « Voici tout ce qu'on a en écoute téléphonique, en perquisition, etc. Ça va vous intéresser. » Ce qui pose déjà une première question, c'est quel est l'intérêt de la justice sportive si, en gros, tout leur échappe? Parce que là, sans la justice ordinaire, il n'y a rien.
Quelle est cette légitimité, bien sûr?
Exactement. Je n'exclus absolument pas que ce système-là puisse toucher d'autres clubs. Parce que, évidemment, que la Juve, on peut lister tous les transferts, il y en a beaucoup. Et ce qui est reproché aussi à la Juve, c'est l'industrialisation de ce système-là. On a attendu de connaître les motivations de la Cour fédérale qui arriveront dans maintenant 7 ou 8 jours. Il y a des choses qui sortent dans la presse, donc on s'y fie plus ou moins. Ce qui est reproché, c'est l'industrialisation du système. C'est-à-dire que la Juve a créé un système dont d'autres ont bénéficié. Et en ce sens-là, pour la Cour fédérale, elle doit être plus punie que les autres. En tout cas, pour l'instant, elle est plus punie que n'importe qui, puisque les autres 8 clubs qui étaient sous enquête, ils n'ont rien eu.
Polo parlait du Napoli à l'instant également. Le Napoli pourrait être touché.
Moi, je vais vous dire mon sentiment. Quand vous parlez avec des dirigeants de clubs italiens, et que vous parlez avec des agents, des intermédiaires, etc., ils vous disent tous que le transfert de Victor Osimhen à Naples est sans doute l'un des plus crades qu'ils ont eu.
Crade.
Dans cette
salle.
Parce que, mais ça c'est pas
de Lille, de provenance de Lille. On était à 80 millions d'euros environ.
Mais ça, je veux dire, j'invente rien, c'est des discussions qu'on a entre nous, etc. Mais tout, c'est à la vue de tout le monde. Hein. Les trois joueurs de Lille, je parle pas de Karnesis, le gardien, parce que gardien remplaçant à Naples, ou troisième gardien qui vient troisième gardien à Lille.
Et de ces trois joueurs qui sont partis à Lille, justement, en provenance.
Ils y sont jamais allés.
Ils sont jamais allés, on les a jamais vus.
C'est un vrai problème. Ils ont été valorisés comme ces trois jeunes de la Primavera du Napoli, 4 millions, 4 millions et 7 millions. On est sur 15 millions d'euros. Des joueurs qui ne sont jamais allés à Lille. On a envoyé les contrats par fax. Enfin, pas par fax, mais par email maintenant. Pardon, je suis vieux. Maintenant, ils jouent tous au niveau amateur. Sauf un qui est en 3e division italienne. Sinon, c'est 4e et 5e division. Un an après, ils avaient résilié le contrat avec Lille. Ah, 15 millions d'euros. Voilà, comme ça.
Ouais.
Donc ce transfert-là, moi, il m'intrigue. on verra ce qui se passe. Aujourd'hui, La Repubblica, qui est un quotidien très sérieux en Italie, disait que le procureur de Naples de la justice ordinaire a décidé de prolonger l'enquête autour de ce transfert-là pendant 6 mois pour vraiment vérifier pas mal de choses, etc. On verra. Il y a aussi des doubles. Quand on parle de plus-value artificielle ou de transferts qui peuvent paraître gonflés, bon, il y a des cas dans d'autres clubs. Je prends l'exemple de l'Inter. Quand je vois Van Huysden qui est parti au Standard de Liège pour 12 millions d'euros, qui jouait quasiment pas, qui était un jeune, peut-être un peu en devenir, mais pas trop, qui ensuite revient à l'Inter pour à peu près la même somme. Même chose avec Pinamonti, qui est parti au Genoa. Même chose pour Yunus Radu, qui est parti au Genoa. D'ailleurs, les liens entre l'Inter et le Genoa sur les doubles transferts, il y a des choses à regarder aussi de ce côté-là. Donc, il y a vraiment... Là, évidemment que tout le monde dit la Juve, et puis avec le passif de la Juve, tout le monde dit ouais, c'est pas étonnant, la Juve, les tricheurs, machin, etc. On entend ça sans arrêt, etc. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ce n'est pas la Juve, c'est un système du football italien.
Qui a pu profiter à plusieurs clubs italiens et pas des moindres.
Il faut littéralement défoncer, détruire. Ça va coûter cher. Ça coûte déjà cher à la Juve. On verra en attendant de l'appel au Comité national olympique italien ce qu'il en sera. Ça coûte cher à des dirigeants. Mais si la Juve a pris 15 points de suspension de 15 points en moins et des suspensions de dirigeants parce qu'ils estiment que c'est la tête pensante du système, bah les clubs qui ont fait la même chose, alors peut-être que c'était pas industrialisé autant, bah peut-être qu'ils doivent prendre 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points, j'en sais rien, c'est pas moi qui vais décider.
C'est comme braquer une banque ou braquer un commerce. Tu braques quand même un commerce, tu vois ce que je veux dire?
Oui, bien sûr.
Donc, mais c'est pour ça que être impuni, ouais.
En fait, si on dit juste on punit la Juve et tout sera résolu, mais non, jamais de la vie. Ouais. Donc soit tu t'intéresses au système, soit tu t'intéresses à la tête de gondole du football italien qui a industrialisé un phénomène.
Les gars, on va poursuivre dans un instant, Polo, si tu veux. Tu pourras intervenir sur le sujet également. D'abord, un 4e but pour le PSG, Jeannot Essayé.
Oui, et un triplé pour Kylian Mbappé avec un super ballon de Danilo tout à l'heure. Par-dessus pour Mbappé. Là, c'est un ballon tout aussi bien distillé par Vitinha dans l'espace. C'est du caviar. Et Mbappé, lui, fait le geste qu'il faut piquer par-dessus le gardien Sanson. 4-0 pour le Paris Saint-Germain. J'ai envie de vous dire, c'est logique, Paris Saint-Germain face à une équipe de Régional 1 pour ce 16e de finale de Coupe de France.
0-0 entre l'Inter et Empoli en Serie A. A noter que Milan Skriniar, cible prioritaire du PSG, est exclu. Il a pris un carton rouge, il est sorti malgré les contestations notamment de Lautaro Martinez. On va dans un instant, rien ne va plus pour le football italien. On en reparle, Polo, dans un instant également. Tiens, on va faire une petite pause, un petit trou normand, minute. La minute de Julien Laurence. Julien, c'est à toi, quel choix musical? Évidemment, magnifique,
c'est bon,
ça. Plus l'histoire.
Voilà.
Le Clash, un thème, ça, Polo.
Bien sûr.
Hein.
Ah, bah oui. Et j'ai même
bien
entendu.
Bien sûr, les Clash.
Ouais, j'ai même entendu. Excuse-moi, Julien. J'ai même entendu qu'à Manchester City, il passait Joy Division, quoi.
Ah, magnifique.
Donc ça va, quoi.
Ouais. C'est vrai. Alors, j'ai choisi les Clash pour London Calling, bien sûr, parce que les clubs londoniens sont invaincus pour l'instant ce week-end. On a Fulham Tottenham en ce moment, donc il y aura peut-être un des deux qui perdra, mais pour l'instant invaincu, dont la victoire de West Ham dans le match de la peur contre Everton samedi 2-0 au London Stadium, un match qui a coûté sa place à Frank Lampard Jr. qui a donc été limogé ce soir là, qui aurait dû être limogé il y a bien longtemps, hein. Une victoire lors des 14 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une victoire sur 12 en premier Première Ligue, c'était bien trop peu pour Lampard, qui avait déjà été viré de Chelsea, rappelez-vous, avant l'arrivée de Thomas Tuchel, qui donc est encore viré là, dans un autre contexte, bien sûr, mais avec des résultats très décevants. Il est arrivé, ils étaient 16e, il les a maintenus la saison dernière, il faut lui reconnaître ça, il part là, ils sont 16e aussi. Ils étaient 16e, ils sont 19e maintenant après la défaite du week-end, mais c'est vrai que ça a été une saison catastrophique pour lui. Je pense que les problèmes d'Everton vont bien plus loin que juste l'entraîneur, que ce soit Frank Lampard ou quelqu'un d'autre. Et on me dit que Marcelo Bielsa serait aujourd'hui l'un des favoris pour prendre. Alors là je signe tout de suite, hein. Je sais pas où faut signer, mais je signe tout de suite. Si Bielsa devient le pompier de service à Everton dans un bordel, je suis désolé pour le mot, hein, mais c'est un bordel monstrueux, ce club. Donc voilà. Bon, courage à lui.
Courage à lui. Bon, t'as pas vu le visage de Fred Armel, hein, désabusé.
Non, mais je t'en fous.
Carlo Ancelotti a pris Everton aussi.
Moi, j'en suis ravi.
Ah, moi aussi, je suis content.
Je ne dis rien.
C'est toujours une bonne nouvelle quand Bielsa reprend un club européen, quoi qu'il arrive. Oui, allez, on fait une pause. Oui. On revient dans un instant. 4-0 pour le PSG face au Pays de Cassel. Le PSG qui, pour l'instant, se dirige vers le stade Vélodrome pour un 8e de finale de Coupe de France, donc face à l'Olympique de Marseille. C'est la mi-temps à l'instant. 4-0, on y en reparle dans un instant. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Fred Hamel, Johan Crochet, Julien Laurence et Paulo Breitner, on essaie de vous expliquer le plus clairement possible et pour l'instant c'est réussi, Johan. La sanction qui frappe la Juve désormais dans le ventre mou de Serie A, on ne désespère pas, Allegri dit on va prendre match après match, on va essayer de revenir en Ligue des Champions, c'est foutu. Ça fait les affaires d'autres rivaux en tête de Serie A, à savoir le Milan, l'Inter, notamment la Lazio, la Roma, pourquoi pas. C'est une des conséquences bien sûr, et puis au marché, dans le prochain marché, les transferts, hein, peut-être que certains joueurs vont devoir trouver un autre club. On pense à Di Maria, Milik aussi important, hein, qui est prêté par l'Olympique de Marseille. Il va falloir trouver un point de chute pour lui, peut-être, s'il veut rentrer à Marseille ou aller ailleurs. Mon cher Paulo, je te rends la parole. Tu voulais rebondir aux explications de Johan.
Non, mais c'est Johan a très bien expliqué différentes choses. Mais moi, si tu veux, lorsque je fais le constat aujourd'hui du foot italien, j'ai juste envie de poser une question à Johan. C'est quoi l'avenir? Et avec un gros point d'interrogation, parce que si même, alors que la Juve soit la tête pensante du football italien, ça va pas être la surprise du siècle non plus. Mais là, quand on voit toutes les affaires qu'il y a eu dans l'histoire du football italien, mais là, si tu veux, je me dis c'est quoi? Je me suis dit, bon, arrivée d'investisseurs internationaux qui arrivent, ils vont commencer à nettoyer un petit peu les comptes, parce qu'eux aussi, ils ont racheté quand même une certaine valorisation des clubs, où ils sont rentrés dans les parts, dans le capital des clubs. C'est quoi, à court terme, l'avenir des clubs, où on va être dans une période noire, où la justice italienne va passer, et on sait que c'est toujours très dur pour se relever, même si on arrive toujours à négocier. Voilà, c'est quoi l'avenir du foot italien en fait?
C'est difficile parce que déjà il faudra voir jusqu'où mène cette enquête et si elle s'étend à d'autres clubs. Parce que si ça touche beaucoup de clubs du championnat, ton championnat il va avoir des lendemains très compliqués.
Déjà, le CRS en est relevé, hein, déjà, en 2007, hein, après le Calciopoli.
Même au niveau image, quoi, réputation, etc. Même si on peut toujours dire qu'elle s'est relevée de ces scandales, etc. Évidemment que l'arrivée de propriétaires étrangers ramène un peu plus de, je vais dire, de vision économico-stratégico-commercialo-sportive.
Ça fait beaucoup, ouais.
Parce que ils veulent structurer les clubs, que c'est beaucoup plus professionnel, que il y a des choses qui, je pense, ne se passeraient pas avec certains propriétaires italiens. Après, il y a toujours une chose, c'est que être propriétaire, c'est une chose, avoir des hommes en place qui respectent ce qui doit être respecté en est une autre. Ouais. Et pour le moment, il y a des clubs qui ont des propriétaires étrangers qui
mettent en place des dirigeants italiens, par exemple.
Qui ont des dirigeants italiens ou du Serail et qui, alors pas sur des plus-values, mais sur d'autres choses, sont pas hyper clean. Donc, être propriétaire, c'est bien. Amener des gens de confiance et des gens qui sont compétents en est une autre. Donc, pour le moment, c'est difficile de voir l'avenir parce qu'on connaît déjà même pas la fin de ce qui se passe actuellement. Donc, je sais pas quoi te répondre à part que ce sera pas le premier scandale, ce sera peut-être pas le dernier, malheureusement, que l'Italie s'en est toujours plus ou moins relevée.
À un moment, on dit que le football italien revient sur le devant de la scène, repart sur la scène européenne notamment, structuré, et malheureusement, encore une fois, il va falloir tout reprendre à zéro, tout assainir dans les prochaines semaines.
La différence, c'est qu'il y a quand même beaucoup de clubs qui ont déjà changé de propriété par rapport aux affaires qui sont en place. Donc, c'est autre chose.
Fred, et après, on reviendra à l'actualité du week-end.
Question un peu naïve à Johan. La Juve, c'est Fiat. La Fiat, c'est des emplois.
C'est Exor. Ouais.
Voilà, c'est des emplois. C'est énorme en Italie. Est-ce qu'il y a encore, du côté de la Juve, un pouvoir sur les politiques qui pourrait que, finalement, les 15 points soient moins de points?
Peut-être que la Juve a fait appel de la décision.
Alors, attention, ça ne peut pas être moins de points à l'heure actuelle.
Pas possible.
Ce qui est l'équivalent du CNOSF français, le CONI en Italie, ils peuvent faire une chose, enfin deux choses, c'est soit ils confirment les 15 points, soit ils annulent complètement la sanction. Ça ne peut pas être moins. C'est
d'accord.
Tout ou rien. Il y a d'autres choses qui peuvent arriver pour la Juve aussi. Il y a une enquête sur les salaires, parce qu'au moment du Covid, il y a eu des reports de salaires qui n'en étaient pas, ou plutôt des annonces de renoncement à des salaires qui en fait n'étaient que des reports et qui n'étaient pas annoncés comme tels dans les bilans financiers transmis notamment, puisque la Juve est cotée en bourse, à la Consob, l'organisme chargé de gérer la bourse italienne.
L'équivalent de la Com en France, ouais.
Et donc, il peut y avoir...
Vas-y, Julien.
Excuse-moi, vas-y. Non, j'allais dire le pire finalement, parce que les transferts, ils se sont arrangés. Il y a, comme tu l'as dit, dans l'after ensemble samedi soir, il y a d'autres clubs qui l'ont fait et qui seront peut-être aussi punis. Mais c'est qu'à un moment, ils ont menti à leurs actionnaires. Parce qu'en fait, quand tu trafiques un petit peu tes comptes comme ça, entre guillemets, on va utiliser le mot trafiquer pour que tout le monde comprenne bien, et que t'as après que t'es coté en bourse et que tu as des comptes à rendre à des gens qui détiennent des parts dans ta société à toi, ça, c'est peut-être encore plus grave, plus grave que tout, parce que tout est grave, mais là, t'as quand même franchi une ligne qui était infranchissable, vraiment.
Ouais, et le cas de la Juve est très intéressant parce que coté en bourse, et que c'est pas détenu à 100% par Exor, qu'il y a même un fonds d'investissement qui a une bonne partie de la Juve. Et aujourd'hui, on parle d'un désengagement parce que ça craint pour eux, quoi. Donc, effectivement, il y a encore d'autres choses qui peuvent arriver. Il y a d'autres.
Mais politiquement, il y a plus de la Juve, la famille Agnelli n'a plus de poids sur la politique, non, sur les juges.
Sur les juges, j'irai pas jusque là, mais sur les politiques, attention, parce que ce qui est arrivé en Italie, la vague d'extrême droite, ça a rebattu pas mal de cartes. Aussi des relations entre les dirigeants, les entrepreneurs et les hommes et femmes politiques du pays.
C'est-à-dire que les nouveaux, ils sont pas cuchemis avec les clubs.
Non, ça. Et puis j'ai l'impression, par d'autres mesures qui ont été prises ou qu'ils ne voulaient pas prendre, qu'ils ont un peu envie de taper sur le foot, sur d'autres mesures. Donc, en tout cas, c'est pas porte ouverte pour le football. Clairement pas avec le gouvernement.
C'est-à-dire que l'extrême droite au pouvoir aujourd'hui ne.
C'est pas tout pour le football, comme ça a été parfois le cas avant. Clairement pas.
Bon, voilà pour le dossier Juve, hein, Johan. On en reparlera bien sûr, les évolutions, les éventuelles sanctions qui pourraient évoluer, être changées dans les prochaines semaines, les autres clubs qui pourraient être touchés également, et l'avenir de la Juve, hein, sur le moyen terme.
Juste très rapide, très vite. Même avec les relations politiques qui existent, etc., la Juve, mais d'autres clubs, hein, la Juve a fini en série B après Calciopoli. Donc, même avec des relations. S'ils veulent te sanctionner, ils te sanctionnent.
Bon, voilà pour la Juve. Revenons au jeu, au terrain. Parlons d'un triplé, le quatrième de sa saison avec City. Erling Haaland, mon cher Julien, quatrième triplé, 25 buts en 19 matchs. Décisif toutes les 55 minutes en première ligue. Bon, voilà. Je sais pas quoi dire, en fait. On en parle tous les 15 jours à peu près. Et on va en parler pendant 15 ans comme ça. Enfin, 10 ans au moins.
Ouais, il était fâché parce que il était resté 3 matchs sans marquer. Il avait marqué qu'un but sur ses 4 matchs d'avant. Ouais. Donc, il était fâché, donc voilà ce qu'il fait. Quand il est fâché, une petite crise, Fredo, t'as raison, il en met 3 sur 4 tirs cadrés. C'est juste incroyable, on continue d'en parler. Donc juste pour vous donner un ordre d'idée, 25 buts donc en championnat cette saison après 74 tirs. Par exemple, Sergio Aguero, qui est le recordman de buts dans l'histoire de Manchester City, avait marqué ses 25 premiers buts après 150 tirs. Donc il est en train d'exploser tous les records. Il a déjà plus de buts avec 25 cette saison que tous les meilleurs buteurs des 4 dernières saisons en Première Ligue. Donc Son et Salah avaient 23 buts la saison d'avant, Kane 23 la saison d'avant, Vardy 23, avant c'était 22 pour le trio Aubameyang, Salah, Mané. Donc rien qu'on est au mois de janvier, il a déjà battu tout ça, il se rapprochera du record de Salah de 32 buts en Première Ligue. Je sais pas jusqu'où il pourra aller, mais s'il continue comme ça, il atteindra peut-être les 50 buts. C'est juste incroyable. Voilà, il y a qu'un seul joueur qui a marqué plus que 4 triplés en une saison de Première Ligue, c'est Alan Shearer en 95-96. Et voilà, Haaland on a marqué 4 en 19 matchs. C'est juste du jamais vu et quelque chose encore une fois d'extraordinaire. Même quand il fait rien d'autre quoi dans le match, il est là où il faut quand il faut. Il y a un penalty, il y a un but facile sur une passe de
Mahrez. Penalty, c'est pour lui d'ailleurs. Je me suis dit, est-ce qu'il aurait pu avoir débat pour il avait ouvert le score. Est-ce que De Bruyne n'aurait pas pu le tirer? Non, c'est lui quoi.
Mahrez, le tireur. Ouais. Mais non, c'est lui.
Et pourtant, City va pas être champion.
Ouf, ça, on en reparlera.
Ah, tu sais, ouais.
Non, mais alors, tu peux dire, le City champion de l'an dernier, avec en plus Haaland, c'est pour ça que le football, c'est génial. C'est pas un truc mathématique.
Tout à fait.
Tu dis le City de l'an dernier, champion, tu rajoutes Haaland qui bat tous les records, et pourtant, City n'est pas en position d'être champion.
Et Arsenal est sorti du chapeau. C'est l'heure de la minute de Polo. Polo Breitner, envoyons la musique.
Ah oui. Ouais. Ah ouais, je connais ça.
Non, tu connais vraiment?
Il connaît. Ah, je
c'est l'un des groupes punk rock historiques de l'Allemagne, c'est les Totenhosen, qui sont d'ailleurs membres du Fortuna Düsseldorf, qui avait sorti donc cette chanson, parce qu'en fait c'est une chanson anti Bayern Munich, en disant il peut m'arriver n'importe quoi dans le monde, en gros si le Real débarque, si Chelsea Real, j'y vais, mais jamais, je sais même pas si Dieu existe, etc. Mais je sais une chose, c'est que jamais je ne signerai au Bayern Munich, lorsque tant qu'il y aura
Paris ou Lyonnais ou différentes choses comme ça, je me rappelle plus des paroles. Ce week-end, ce dimanche, entre 11h et 13h, dans la fameuse émission Doppelpass dont je vous parle quelques fois, qui faisait ses 30 ans, l'invité, c'était Ouli Onnes. Et il nous a fait sa communication habituelle sur différents sujets. Je vais vous faire rapidement un petit florilège. Harry Kane, c'est un grand joueur, évidemment, mais ça coûte très cher et je peux pas imaginer le Bayern pouvoir payer ou qu'il ait envie de payer cette somme-là. Donc, en fait, il envoie un petit message au président du FC Bayern, Oliver Kahn, alors que lui n'a plus de fonction opérationnelle dans le club. Il parle de Choupo-Moting qui doit prolonger absolument, mais il en profite pour mettre un tacle à son agent Roger Wittmann en lui disant mais c'est pas évident de prolonger quand on a Roger Wittmann en face de lui parce qu'il confond beaucoup les zéros. Il y a différentes choses comme ça où il sort. Il y a sur la prolongation de sur l'arrivée pardon de Yann Sommer par exemple, il dit bon on va arrêter de parler parce que on a donné de l'argent à Mönchengladbach, ils sont contents, nous on a trouvé une solution, etc. Et en fait on n'a pas fait du social non plus, quoi, tu vois. Il y a systématiquement lorsqu'il sort des petites baffes à droite à gauche pour les gens qui sont pas contents, etc. Et puis il a actuellement le Francfort est deuxième au classement et donc le président de Francfort c'est Axel Hellmann et il a dit ouais j'aime bien Axel Hellmann, parce qu'on lui a proposé, on lui a dit est-ce que Francfort allait pouvoir embêter le Bayern cette saison, il dit non mais j'aime bien Axel Hellmann, il est comme moi, il a une grande gueule donc ça fait du bien au football. Et si tu veux c'est un personnage qu'on aime ou qu'on aime pas, mais voilà, moi je sais que je l'adore, mais voilà. C'est comme ça.
Ouli Onnes. Polo, tu restes avec nous. On parlera également d'Amin Alli, hein, qui a brillé ce week-end aussi. Daniel Riolo est de retour. Il sera là dans quelques secondes avec nous pour poser des questions aux drôles de dames. Notamment parler d'Antoine Griezmann, qui a été brillant et confirme son retour en grande forme. C'est Génération After spécial drôle de dames. 4-0 pour le PSG. Vous le savez, face au Pays de Cassel en Coupe de France. Et 0-0 entre l'Inter et Empoli. On revient dans quelques secondes sur RMC. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Paulo Breitner, Fred Hermel, Julien Laurence et Johan Crochet. 4-0 pour le PSG à la mi-temps face à Pays de Cassel en Coupe de France. 0-0 entre l'Inter et Empoli, c'est la mi-temps. 0-0 entre Fulham en Première Ligue et Tottenham après 30 minutes de jeu en Espagne, mon cher Fredo. Valence, 0-0 face à Almeria. Un bon ventre mou, ça, Valence Almeria. Ah, 13e contre le 14e. J'accueille Daniel Riolo. Bonsoir, Daniel.
Bonsoir, les amis.
Daniel, évidemment, tu l'as entendu peut-être revenant. On a beaucoup parlé de la Juve.
Donc, on n'en reparle pas.
On n'en reparle pas, voilà, exactement. C'est le sens de mon propos. Vers qui te tournes-tu pour une première question?
Le futur champion.
Ah, allons-y.
Le futur champion. Johan, le pays se fait à l'idée. Parce que, comme ces dernières années, alors peut-être pas les deux dernières, mais si on remonte un petit peu avant.
Paris.
Plein de fois, on s'était dit que ça allait peut-être être la bonne, parce que peut-être on se rend pas bien compte vu de France, mais c'est un club qui n'a été que deux fois champion, mine de rien. C'est pas grand chose. C'est un club dont on parle beaucoup parce qu'il y a plein de légendes autour, le public, Maradona, machin. Mais c'est que deux titres. Ouais. Le football en Italie, on l'oublie peut-être trop, mais c'est monopolisé par les trois clubs du Nord depuis toujours, historiquement. Donc ce sont des exceptions quand c'est pas un de ces trois-là qui est champion. Est-ce que d'abord le pays se fait à l'idée et se dit maintenant les points d'avance c'est bon, cette fois c'est bon? Et surtout, est-ce qu'on aime ça? Parce que c'est pas un club qui est aimé partout, faut bien le dire. Est-ce que, je sais pas, on félicite le jeu, on dit c'est l'équipe qui est la plus séduisante, un petit peu comme on dit en France aujourd'hui qu'on kiffe voir jouer Marseille et Lens par exemple. Est-ce que ça se dit ça?
Ça se dit clairement, parce que sincèrement il est difficile de passer à côté, quoi. Quand tu regardes les matchs du Napoli, il y a une telle domination par le jeu, il y a un tel enthousiasme qui est déclenché par cette équipe quand tu la vois jouer sur le terrain, parce que il y a le championnat, Daniel, mais il y a aussi ce qui s'est passé en Ligue des Champions qui a été encore plus impactant. La raclée mise à Liverpool, à l'Ajax, tout ça a vraiment cimenté cette impression de domination totale sur le football italien de manière générale, et même le football italien en Coupe d'Europe actuellement. Donc ça, évidemment, alors tu vas jamais demander à un Juventino de dire que Naples joue bien et que Naples sera un beau champion, c'est difficile, même à Rome, c'est... Le problème, c'est que le campanilisme est très, très, très développé en Italie, et donc tu trouveras toujours des gens qui n'aiment pas Naples, et ce sera très compliqué. Mais les gens qui sont à peu près neutres, ou même dans la sphère médiatique, parce que tout le monde ne peut pas s'afficher.
C'est ça, surtout, je visais, moi.
Voilà. Il y a quand même clairement un état de fait aujourd'hui de dire que Naples joue très bien, Naples mérite totalement.
Et la meilleure équipe, ça joue mieux.
Et en plus, ils ont réduit leur masse salariale, ils ont recruté intelligemment. On va mettre de côté le transfert d'Osimhen dont on a beaucoup parlé. Mais en dehors de ça, ça a pas mal recruté. Ils ont baissé. Ça prouve aussi.
Ça permet à De Laurentiis de faire des sorties pour donner des leçons à tout le monde et se venger un
peu. Exactement. Et ça montre aussi un peu comme le Milan la saison dernière. C'est que aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être le club qui a la plus grosse masse salariale en Italie, le club qui dépense le plus pour être compétitif. Et donc ça, forcément, c'est appréciable, même si on connaît, en Italie, ça peut très vite changer. Mais l'idée est claire aujourd'hui. Là, on voit encore l'Inter qui galère contre Empoli. Le problème, c'est pas tant le niveau. Enfin, le problème, c'est que pour les autres clubs, c'est pas tant qu'ils font une mauvaise saison. L'Inter, le Milan, ils font pas une mauvaise saison. Même la Juve, avant les 15 points de moins, vous savez ce que je pense du jeu d'Allegri. On pouvait pas dire qu'en termes de résultats, ils faisaient une mauvaise saison en championnat. Le problème, c'est qu'ils ont des extraterrestres devant.
Daniel, une question encore. Et puis, tiens, Polo aussi, vous nous parlez d'Amin Adli, ça t'intéresse?
Ouais, je pose une question à Fredo, puis après, il parle de ce qu'il veut, Polo.
Vas-y, Fredo.
Oui, merci.
Fredo, bon, vous en avez parlé de Vinicius, mais je trouve que l'ambiance autour de ce joueur, moi, elle est un peu folle. Il se fait siffler partout, il est pas vraiment aimé et tout. Mais comme t'en as déjà parlé, allez, soyons positifs, parle-nous de Griezmann. Alors, il y a ceux qui sont rentrés de la Coupe du Monde, fatigués, à côté de leur pompe, pas bien et tout. Lui, la Coupe du Monde, bon, à part la finale où il a été mauvais, il a été bon à la Coupe du Monde, il revient et c'est le patron de l'Atlético, club où il était plutôt un peu sur la fin, voire tricard. Gros renversement de tendance quand même.
Il s'est remis de ces deux années, de ces deux saisons à Barcelone, on va dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que le match contre Valladolid, c'est un but de base décisive. Que tu le mettes deuxième attaquant ou co-attaquant, ou que tu le mettes comme le match à Valladolid un peu plus derrière avec Correa et Morata devant, il pèse partout. C'est-à-dire il pèse offensivement, il pèse défensivement. Donc la question, en ce moment, on peut dire que c'est l'un des trois meilleurs joueurs du championnat espagnol, quoi, sans aucun doute, quoi.
Carrément.
Ah ouais, attends, mais il faut voir les matchs.
Ça, c'est quelque chose qu'on avait complètement oublié.
Il a été avant.
Simeone avait arrêté d'être gentil avec lui.
Alors après, sur la fatigue, il y a un truc aussi. Il faut pas oublier qu'il a pas joué
qu'une demi-heure par match.
Parce qu'il jouait qu'une demi-heure à cause de ce fameux
clause,
etc. Qui a été réglé juste avant le mondial. Donc, il est arrivé, moi, on s'inquiétait un peu en disant il a pas assez joué avant le mondial. Bon, finalement, comme il avait joué quelques matchs, finalement, suite à l'accord entre l'Atlético et le Barça. La question a été posée à Griezmann après le match contre Valladolid en disant est-ce que c'est ton meilleur niveau? Il dit je suis pas encore mais presque. Lui-même sent que puis il est heureux. C'est
l'état d'esprit, le mental.
Et puis là, le club où tu joues,
c'est son club.
C'est son club.
Il a même commenté la NFL hier pour une chaîne Movistar.
Bien sûr, c'est-à-dire que c'était une erreur terrible dans sa vie. Mal conseillé par certaines personnes,
il le dira jamais, évidemment.
D'aller à Barcelone. En fait, il y avait le risque en disant on a perdu Griezmann pour le football. Non, on l'a récupéré pour le football. Et c'est une très bonne nouvelle pour le football espagnol, pour l'équipe de France aussi.
Et mon cher Polo, le Bayer Leverkusen se régale d'avoir attiré Amin Adli, qui a été buteur encore ce week-end. Enfin, pour la première fois d'ailleurs.
Enfin, ça fait quand même un an et demi qu'il est là. Il est plus remplaçant et remplaçant de luxe qu'autre chose. Il profite du fait, évidemment, que Schick n'est pas là et toujours blessé. Et donc, Leverkusen, quatrième victoire à la suite sous les ordres de Xabi Alonso, est en train de remonter au classement lentement mais sûrement. Et Adli a peut-être fait sa plus grande performance depuis qu'il est arrivé à Leverkusen, et Xabi Alonso croit encore à la qualification en Ligue des Champions, et j'aimerais bien voir sur le long terme ce que fait Adli, le Français, qui sera sûrement titulaire la prochaine fois. Week-end prochain, il y a un certain Leverkusen-Dortmund, je pense que ça va valoir le coup.
Alors, je vais me permettre de donner un cours de basque, de langue basque, d'Euskera à Apollo, c'est Xabi.
Xabi, oui.
Voilà.
Comme le jeu.
Comme un chat, quoi.
Comme un chat, c'est Xabi.
Ou comme le Xabi. Jeu auquel on jouait quand on était petit.
Voilà. À ne pas confondre avec Xabi.
En même temps, j'ai jamais joué au Xabi, hein.
Je voulais pas le dire, Daniel, au moins il dit des choses.
De teubé,
très franchement.
Même gamin, je croyais que c'était un truc de teubé, ça.
Merci, les gars, on s'est régalé. Fred Armel,
Julien, il n'a pas le droit de parler.
Non, 50 secondes, il y a des matchs. Et le PSG qui joue ce soir, Daniel, c'est important quand même. Pays de Cassel, Paris Saint-Germain.
Pour une fois, c'est les Anglais qui n'ont pas tout.
Jeannot Rézéguier.
5 minutes de jeu en deuxième période. Bernat a remplacé Nuno Mendes. 4-0 toujours pour le Paris Saint-Germain. Normal, logique, face à une équipe de Régional 1 pour ce 16e de finale. Triplé de Kylian Mbappé. Ils ont tenu 28 minutes avant le premier but du Paris Saint-Germain et de Kylian Mbappé. Ensuite, en 7 minutes, ils en ont pris 3.
C'est bouclé là, Jeannot, qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, je pense, oui, complètement. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ils ont mis 6 minutes à passer la ligne médiane en toute première période. Et là, ils ont réussi. Allez, je pense que si le PSG joue tranquille comme ils abordent la deuxième période, peut-être qu'ils peuvent être dangereux, mais je ne sais pas s'ils seront buteurs.
À tout à l'heure, pour la suite de ce match, 0-0 entre Fulham et Tottenham après 35 minutes de jeu, 0-0 entre l'Inter et Empoli, c'est la 53e, et entre Valence et Almeria en Serie A. Merci les gars, Gilbert Harry, Paul Relais, Daniel Riolo également, Flo Gautreau. Bonne soirée à tous, l'after continue jusqu'à minuit.